Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Salut à tous les amis, 18h05, ravi de vous accueillir pour un nouveau Team Dugas. Nous allons nous régaler pendant 2 heures à débattre, à parler football, notre passion, la passion qui nous anime à tous, avec Jean-Louis Tour qui est parmi nous. Bonsoir mon Jean-Louis.
Salut Dugas.
Comment ça va mon poulet?
Ça va très bien, ravi de retrouver tout le monde en direct pour Team Dugas ce soir.
Exactement, et ce soir nous recevons la crème de la crème, Jérôme Rotten et Capitaine Larquet. Bonsoir les amis.
Bonsoir à vous.
Salut à tous.
Bienvenue.
Bonsoir à tous les deux. On va se régaler avec un gros programme pendant 2 heures dans Team Dugas. Avec à 19h la domination de l'Espagne de 2008 à 2012. 2 euros, une Coupe du Monde. Est-ce le modèle ultime dans le jeu, dans le palmarès? 32-16 pour en parler. On s'attardera sur ces individualités qui n'ont pas gagné le Ballon d'Or et qui ont fait tant gagner la sélection espagnole. À 18h30, le PSG a surpayé certains joueurs pendant des années. Est-ce là la plus grande erreur des dirigeants depuis leur arrivée? Le débat avec nos infos balance, fou, tout ça. À l'heure. C'est-à-dire
ouais, je sais que ça te rend fou. C'est pour ça, moi, j'ai envie, tu balances, t'en as marre, ça y est, c'est ton cri du cœur, t'en as ras-le-bol. Je savais, ça te touche.
On en parlera tout à l'heure. Mais on va commencer donc par José Mourinho. Julien Laurence nous rejoint, notre correspondant en Angleterre. Salut Julien.
Salut Jean-Louis, salut Julien.
Alors ça a donc clashé entre Tanguy Ndombele, le milieu de terrain de Tottenham, et José Mourinho. On va partir de ce cas-là et débattre. Mourinho a-t-il un problème avec les joueurs français? Car Ndombele, c'est pas le premier à se prendre la tête avec le portugais. Il y a eu parmi les plus gros cas, Pogba, Martial, Benzema, même si ça s'est bien fini entre eux, mais il y a eu une phase compliquée. Alors donc Mourinho a-t-il un problème avec les joueurs français? 32-16. Juste Julien, sur le cas Ndombele, est-ce que tu peux nous rappeler un peu la genèse de leur embrouille?
Oui, bien sûr, quasiment depuis le départ, hein, depuis l'arrivée de Mourinho à Tottenham au mois de novembre pour remplacer Pochettino, il a eu des soucis avec Ndombele. Alors soit publiquement, rappelez-vous quand même des conférences de presse d'avant-match ou d'après-match où Mourinho avait clairement ciblé le Français en expliquant qu'il n'avait pas le comportement d'un joueur professionnel par exemple, qui donnait pas assez sur le terrain, des choses assez violentes parfois même, et puis aussi en privé, que ce soit à l'entraînement ou dans son bureau, comme ça a pu être le cas par exemple cette semaine lors du clash le plus récent. Et quand on se rappelle aussi cet incident assez incroyable, rappelez-vous, pendant le confinement, où José Mourinho était allé sonner à l'interphone de Tanguy Ndombele un matin, sans l'avoir prévenu avant, pour lui dire « Descends, on va aller faire une petite session d'entraînement, toi et moi, dans le parc d'à côté ». Alors un, déjà c'était complètement contre les règles du gouvernement en termes de confinement. Et puis deux, le pauvre Ndombele, il a dû se demander ce qui se passait quand Mourinho vient sonner chez toi alors qu'il t'a pas trop calculé pendant les deux mois précédents, pour aller comme ça courir dans un parc pendant le confinement. Et peut-être que à ce moment-là Ndombele avait pensé que c'était un nouveau départ entre guillemets. Et ben clairement il s'est rendu compte lors de la reprise de l'entraînement il y a 4 semaines de cela maintenant que c'était pas du tout un nouveau départ. Et puis lors des deux matchs que Tottenham vient de rejouer, il est resté sur le banc les deux fois contre Manchester United et puis contre West Ham avant-hier, donc quelques jours seulement après le clash de lundi dernier.
Alors lui, il s'est justifié en disant qu'il ne pouvait pas faire jouer tout le monde et que c'était comme ça, qu'il y ait seulement 12 à 13 joueurs qui jouaient chaque match et que lui ne pouvait pas faire plus. Dugas, est-ce que tu dirais qu'il a un problème avec les joueurs français ou avec la mentalité peut-être des joueurs français?
Le sujet est vaste, mon Jean-Louis. Le sujet est vaste. Après,
tu sais. Ça tourne vers toi.
Oui, bien sûr. Je porte pas Mourinho dans mon cœur. Après, qu'est-ce que c'est Mourinho? C'est un mode de management très particulier. Il a un rapport humain à ses joueurs très particulier. On a l'impression qu'il est toujours dans une espèce de celui qui a la plus grosse avec ses joueurs. Donc, il se sert de ça pour en motiver certains. Ça marche avec certains. Et c'est vrai que ça paraît être beaucoup plus compliqué, cette espèce de provocation qu'il a, que ce soit en interne ou que ce soit médiatique, avec ses joueurs français. Il a des problèmes avec les joueurs français qui n'acceptent pas cette méthode, cette façon de faire. Alors est-ce que c'est la faute des joueurs français qui sont des enfants gâtés et qui ont du mal à se faire à cette exigence demandée par un entraîneur comme Mourinho? Ou est-ce que c'est lui qui exagère et qui en fait trop? J'ai souvent critiqué Mourinho. Je pense que chaque cas est malgré tout particulier. On ne peut pas faire une généralité en disant qu'il est contre les joueurs français. Ouais. Maintenant, Ndombele, je l'ai vu jouer aussi. Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que c'est un joueur qui, quand il a le ballon dans les pieds, est capable de faire de très très belles choses. C'est un joueur qui est très adroit, très habile avec le ballon. Après,
il doit progresser aussi.
il doit progresser. Il doit progresser quand il n'a pas le ballon. Ce garçon ne fait pas assez, ne court pas assez. Et quand je vois le milieu de terrain, notamment de Tottenham, avec un joueur comme Sissoko, qui est forcément, enfin, qui est beaucoup moins talentueux que lui, ou même le petit là, Wings, là, c'est ça, c'est.
Wings.
Ouais. Wings, exactement. Les mecs, ils galopent, quoi. Alors que Dendombele, il galope pas, il court pas au milieu de terrain. Si tu veux jouer que quand t'as le ballon, eh bien, écoute, essaie de jouer un peu plus devant, attaquant, même si on te demande aussi de beaucoup courir quand t'as plus le ballon, de te replacer. Mais il fait pas assez. Il fait pas assez. Et je peux comprendre un entraîneur par moment, même si je trouve que des fois, que souvent il va trop loin, Mourinho. Je peux comprendre quand t'as la chance d'avoir un joueur avec un tel potentiel. Et les joueurs français sont proposés comme tels, sont vendus comme tels. Oui. Quand t'as un joueur comme Ndombele qui vaut 60 ou 70 millions d'euros, au bout d'un moment, t'es obligé d'en attendre beaucoup. Il attend beaucoup de ce joueur-là. Et quand il se rend compte que certains joueurs français ne donnent que la moitié de ce qu'ils sont capables de donner, eh bien, ça l'énerve, que ce soit même avec les. Alors après, il a une façon de communiquer qui est bizarre. Et je peux comprendre qu'à un moment ou un autre, les joueurs se vexent. Mais ce qui s'est passé notamment avec Benzema, on se rend compte aujourd'hui et on se rend compte sous la coupelle de Zizou que Benzema est capable de réaliser des choses extraordinaires. Et on le voit, c'est peut-être un des meilleurs attaquants au monde aujourd'hui. Mais est-ce que la façon de faire de Mourinho est en adéquation avec le joueur français? La question, elle peut se poser là. Mmh. Et Mourinho, il n'a pas changé sa façon de faire, qui a souvent fonctionné avec d'autres joueurs, qui a permis par exemple à la grande époque de faire jouer Eto'o arrière-gauche, qui ne fonctionne pas avec les joueurs français. Donc à qui est la faute? Je pense que les torts sont partagés, c'est jamais ou tout blanc ou tout noir de toute façon.
Alors Captain, tu voulais réagir tout de suite?
Oh ben si tu me donnes la parole, je la prends.
Ah, j'ai cru que tu la prenais tout seul, c'est pour ça.
non, j'écoutais, j'acquiesçais, j'acquiesçais pas. La première des choses, c'est que je ne connais pas un seul entraîneur, mais pas un. Ou alors, il faut qu'il relève, ça relève de la psychiatrie. Je connais pas un seul entraîneur qui se prive d'un joueur qui est au-dessus d'un autre.
Précision, moi j'ai connu des entraîneurs, ça relève de la psychiatrie. Il y en a certains, il ne faut pas croire que c'est que les joueurs qui ont besoin d'aller voir le psychiatre.
Eh bien écoute, moi je ne connais pas d'entraîneur qui, lorsqu'un joueur était largement supérieur et qu'il avait sa place dans l'équipe, même s'il avait une tête.
Je suis d'accord,
qu'il s'en passait. Ça, c'est la première des choses. Et puis là, vous avez pris des exemples. Oui. Des exemples avec Sissoko, par exemple. Sissoko, il n'est pas international français?
Ah si, non, il y a.
Et ça se passe plutôt bien avec Sissoko. Ça se passe même plutôt très bien avec Sissoko. Et j'imagine qu'il n'a pas affaire à Sissoko les reproches qu'il fait à Dembélé.
Oui. Ça se passe, capitaine. Ça se passe souvent bien avec les soldats. Dès que les joueurs sont un peu.
D'autre part,
juste pour compléter ça, capitaine, et je te redonne la parole juste après, parce que lorsqu'on a mis le programme de Team Dugas sur les réseaux sociaux, le clan Mourinho nous a contacté un membre de notre rédaction pour dire. Bon, en tout cas, ils lisent les réseaux sociaux pour nous dire. Attendez, on a une liste avec Makelele, avec Zuma, avec Varane, avec Rémi, avec Loris, avec Sissoko, jamais aucun problème. Donc on ne peut pas généraliser. Ils mettent aussi Benzema dans le truc parce que effectivement Benzema a eu des mots gentils pour Mourinho après leur collaboration, effectivement.
Et après, je pour poursuivre ma démonstration, enfin étayer mon avis plus exactement.
Bravo.
Moi, je n'ai assisté qu'à une seule remise de Ballon d'Or. Une seule, c'était ou Messi, Ronaldo, je crois que c'était Messi cette année-là. Non, c'était Messi. Et j'avais fait une interview en espagnol magnifique.
J'imagine.
Donc, je vous dis simplement que j'ai vu ce jour-là des joueurs qui étaient à droite et à gauche et Mourinho avait été élu entraîneur de l'année. Puisque en même temps que le Ballon d'Or, il y a d'autres trophées. J'ai vu des joueurs, notamment Batave, lui tomber dans les bras et le serrer. J'avais pas l'impression qu'il y avait un problème. Et j'ai même été étonné de l'osmose qu'il y avait entre Mourinho et ses joueurs ou ses ex-joueurs. Dernier point.
Oui.
Puisque nous avons Julien qui est là.
Oui.
Il me semble qu'avec une lune des stars qui n'est pas française de Tottenham, un dénommé Dele Alli, quelque chose comme ça.
Oui.
Il n'aurait pas eu quelques petits problèmes et Dele Alli n'aurait pas fait quelques stages sur le.
Il a pas eu des problèmes qu'avec les Français, c'est certain.
Il a pas fait quelques petits stages sur le banc de touche, Julien?
Si, tu as raison, capitaine.
Voilà. Donc, voilà, je pense que Mourinho, il est comme tous les entraîneurs. que le joueur soit blanc ou soit noir, soit français ou soit anglais, si le joueur est efficace.
Bon, d'accord. Alors, écoute, tu m'as
à l'entraînement et dans le match.
Jean-Louis.
Oui.
C'est un bon résumé.
Il peut être de quoi avec tout le monde.
Oui, Mourinho. C'est ça. Oui. Ouais, vas-y, Julien. Ça. Et après Jérôme.
Mais juste pour illustrer, pour équilibrer, juste avant qu'on donne la parole à Jérôme, le dernier match où Ndombele est titulaire, c'est celui juste avant l'interruption pour la pandémie à Burnley. Il sort à la mi-temps. Il est remplacé à la mi-temps. En première période, 45 minutes, il fait zéro sprint. C'est-à-dire que Hugo Lloris a fait un sprint dans le match à un moment pour aller il a sprinté pour aller chercher un ballon dans les pieds d'un attaquant adverse. Il a fait un sprint. Tanguy Ndombele, zéro sprint. Et je pense que, encore une fois, pour équilibrer le débat, je pense que les deux ont leur part de responsabilité. Mais quand Mourinho voit ça, à mon avis, il doit devenir complètement fou qu'un joueur à ce niveau-là, en première ligue, fasse zéro sprint en une seule mi-temps.
Julien,
c'est incroyable.
Merci, parce qu'on doit te libérer. La parole pour Jérôme.
Jérôme faisait pareil, il sprintait pas beaucoup, hein. Ça prend pas, il a fait une grande carrière.
Non, mais.
Alors, Jérôme, à la limite, ne généralisons pas avec les joueurs français. Là, vous m'avez expliqué. Ouais,
mais c'était
y a pas
la question,
je vous
dis.
Vous m'avez expliqué, je suis convaincu. Moi, je suis. Voilà.
Ça l'embête parce qu'on a répondu à la question. Il préfère qu'on réponde
à
la question.
Non, vous y avez bien répondu. Et donc, je vais emmener le débat ailleurs avec Jérôme. Est-ce que Mourinho, selon toi, Jérôme, n'a pas un problème avec la mentalité d'une certaine jeune génération? Et est-ce qu'il ne doit pas, lui aussi, faire un pas vers cette jeune génération?
Ouais. Je sais pas. De toute façon, il n'y a pas que Ndombele qui est dans la nouvelle génération. Il en a des jeunes joueurs à Tottenham et il en fait jouer. Donc
c'est plus à Ndombele de faire le boulot, quoi. De se rapprocher de Mourinho que le contraire.
Je pense que quand déjà tu changes d'entraîneur, t'as un entraîneur qui arrive en courte saison, les cartes sont redistribuées. C'est l'eau de toutes les équipes et encore plus des grandes équipes où l'effectif il est quand même assez étoffé du côté de Tottenham. Il y a de la concurrence. Moi, ça me choque pas que Ndombele ne joue pas dans cette équipe. Ça me choque plus quand les résultats sont pas bons et que Mourinho s'entête à mettre toujours les mêmes. Encore là, ils ont gagné.
Oui, mais c'est pas la question.
Non mais si, c'est un peu la question parce que à l'arrivée, vu que les cartes sont redistribuées, forcément c'est aux joueurs de faire des efforts par rapport à un nouveau mode de fonctionnement, par rapport à des choix tactiques. En effet, moi j'en ai commenté des matchs de Tottenham dont le dernier c'était le match aller Tottenham Leipzig là en huitième de finale là quand Tottenham avait pris une leçon de football contre Leipzig, ils étaient vraiment pas bien. Ndombele était remplaçant, il était rentré. Mourinho, j'ai pas vu, si tu veux, d'animosité avec Ndombele. Au contraire, à chaque fois, il l'a encouragé, même quand il perdait le ballon. J'ai trouvé qu'Ndombele avait fait des efforts. Je l'ai pas trouvé en forme, ça c'est sûr, c'est une certitude. Je trouve qu'il était un peu nonchalant. Julien l'a confirmé sur le match où il a été titulaire à Burnley. En effet, quand tu fais pas de sprint dans une mi-temps, même si c'est pas un poste où t'en fais le plus, il y a des efforts à faire. Et je pense qu'Ndombele, au bout d'un moment,
il faut faire semblant quand même pour un 45 minutes, ne pas en faire.
Oui, là, il faut. Et je pense que, en effet, il a une personnalité qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que il se sent pas du tout dans les clous avec Mourinho. Il est pas dans les petits papiers de Mourinho, et ça se ressent dans les performances et dans son attitude. Donc,
ce qui est sûr, au bout d'un moment, Ndombele, faut pas arrêter de me faire croire que Ndombele, malgré son talent, à Lyon, il savait tout faire. Ce garçon, il a une marge de progression incroyable. Tout entraîneur au monde va essayer de lui faire progresser et de lui faire progresser dans ses défauts. Je peux te garantir que Mourinho, alors je sais pas si c'est son entourage écoute RMC, mais s'il avait écouté RMC, jamais, alors il était pas là, tu me diras, mais jamais Tottenham n'aurait pris Ndombele. Parce que
60 millions en plus.
Non, mais le problème d'Ndombele, on l'a tous vu. Et Aouar, alors là, un petit peu moins, mais il a aussi, c'est ces joueurs qui jouent au milieu de terrain. Et il suffit de regarder, quand leur équipe n'a pas le ballon, ces joueurs-là ne courent pas. Ils courent que quand ils ont le ballon et vers le but adverse. Dès qu'il faut courir en sprint vers leur but, pour défendre, pour faire les efforts, ils ne le font plus. Et ils se touchent le genou. Ndombele, il adorait. Ndombele, il adorait se toucher le genou.
Il se remonte les chaussettes.
Il se remonte les chaussettes. Il adorait faire ça.
Je te rejoins pas sur le début de saison d'Ndombele. Il faut pas oublier les très bons matchs qu'il a fait avec Pochettino. Alors peut-être qu'en effet, t'as raison. T'as raison parce que c'était
très
gros.
Qu'il est très adroit techniquement, donc il y a une espèce de, quand tu vois ce joueur-là, t'es marqué par sa qualité technique et par sa capacité à se sortir dans les petits espaces. Oui. C'est assez rare. Donc il impressionne au départ, mais le fond du jeu,
c'est ce
que tu demandes
à
Mourinho, c'est pas ça.
Oui, mais attends, et Pochettino n'est pas complètement fou.
Mais il aurait pu jouer avec Pochettino. Il aurait joué, il aurait joué au début. Il aurait pu jouer après. D'ailleurs, Pochettino, il s'est fait virer.
Mais Pochettino, s'il le prend à 60 millions,
mais il s'est trompé, ils se sont trompés.
Je suis pas sûr. Il faut pas oublier. Je suis d'accord sur un point et t'as raison, c'est que c'est un jeune joueur et que en plus c'est un jeune joueur qui est arrivé tardivement parce que bon, il a fait une année à Amiens direct, il a été projeté à Lyon, la première année était très satisfaisante, la deuxième il a confirmé en plus avec la Ligue des Champions et hop, au bout de deux ans il s'en va à Tottenham où le statut change. Donc déjà, il y a le fait d'arriver dans un club où ton statut change, le poids du transfert pour un jeune joueur, quel qu'il soit, je pense que c'est compliqué.
Mais en plus de ça, les défauts qu'il avait à Lyon ou à Amiens, il les a toujours à Tottenham. Il est là le problème.
D'accord, mais peut-être que et tu le sais parce que tu l'as vécu aussi avec des entraîneurs. Peut-être qu'avec Pochettino, il aurait réussi peut-être à passer ce cap-là et à progresser sur certains points. La preuve, c'est qu'en équipe de France, sur les échos que j'ai, Didier Deschamps, il était très satisfait quand il l'a appelé de son investissement, que ça soit en dehors du terrain, sur le terrain, ou quand il était titulaire ou pas titulaire, et que Pochettino, peut-être que il aurait réussi à lui mettre ça dans la tête. De toute façon, tout n'était pas parfait sur le début de saison d'Ndombele.
Mais avec Mourinho, il y a ce problème. Et le clan Ndombele reproche à Mourinho ses piques, ses vexations, parfois devant le groupe ou dans la presse. Avec les joueurs d'aujourd'hui, il faut tenir compte de ça. Et celui qui a très bien compris, c'est Didier Deschamps. Celui qui s'est très bien adapté à la nouvelle génération, c'est Didier Deschamps.
C'est peut-être Didier Deschamps, mais que je sache, Ndombele n'est pas titulaire en équipe de France.
Non, mais c'est généralisé.
T'as généralisé un peu, mais Ndombele, Jérôme l'a dit, c'est vrai que ça s'est bien passé en équipe de France parce que l'équipe de France a le ballon et a joué contre des équipes qui lui étaient très souvent inférieures. Donc quand l'équipe de France a le ballon, Ndombele est intéressant. Le problème, c'est quand son équipe n'a pas le ballon. Il est là le problème de Ndombele.
Qu'il doit progresser.
Il y a que lui qui peut le comprendre. Ça, c'est pas la faute à son entraîneur, c'est pas la faute à l'entourage, c'est pas la faute au pic. Si lui ne prend pas conscience des choses, il ne passera pas. C'est tout.
Je pense, Jean-Louis, que vous focalisez. Évidemment, c'est normal sur les matchs. Mais il y a 4, 5, 6 entraînements qui précèdent les matchs. Tu penses que lors des entraînements, il ne le reprend pas, il ne lui dit pas ce qu'il faut faire, parfois gentiment, parfois un peu moins gentiment, et ceci et cela. Quand un joueur a des qualités, Jean-Louis, quand un joueur est un peu laborieux et que, il fait le maximum et c'est pas exceptionnel. On lui pardonne beaucoup de choses. Mais quand ton joueur a des qualités et que il ne peut jouer que sur ses qualités, c'est-à-dire que quand il a le ballon, comme dit Christophe, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc l'investissement pour l'instant de Ndombele est pas suffisant. Et je pense pas que lorsque Mourinho lui fait des remarques ou ne le fait pas jouer, il lui demande sa carte d'identité ou son passeport.
Non, mais après, attention. Est-ce que c'est la faute à Mourinho ? Est-ce que c'est Mourinho qui, psychologiquement, dans son management, n'est plus capable d'amener certains joueurs à se dépasser ? Il a eu des problèmes avec beaucoup. Le sujet est possible là aussi. Dans son management qui a fonctionné pendant des années, on a l'impression, moi j'ai le sentiment que parfois dans sa relation humaine, ce qu'il faisait il y a quelques années qui marchait avec cette génération de joueurs ne marche plus
ou beaucoup moins maintenant.
Non mais moi Mourinho je le taille toujours parce que je trouve qu'il va trop loin pour les joueurs français.
On se dirige vers un point de non-retour entre les deux, même si rien n'est définitif. Le PSG se serait renseigné dans le passé, là il n'y a pas de contact actuellement. Jérôme, est-ce que ce serait une bonne recrue pour le PSG ? Est-ce qu'à la place de Leonardo, tu te positionnerais ?
Après, ça dépend le tarif, mais je pense qu'en effet, il y a des choses à faire avec ce joueur-là. Après, je sais pas, je connais pas son état d'esprit. C'est difficile de parler à sa place, mais quand tu vois les qualités,
toi, tu le prendrais.
Les qualités, oui, parce que c'est aujourd'hui. Ok, je suis d'accord avec vous sur certains matchs, il fait pas assez d'efforts et tout ça, mais c'est peut-être dû à l'environnement, à la relation avec son entraîneur. C'est possible, on ne sait pas.
Beaucoup mieux à Paris,
Mais non, mais Duga, ce que je veux dire, c'est que j'avais pas ressenti ça avec Pochettino, donc c'est déjà bon signe. À Lyon, en effet, par moment, il avait peut-être tendance à s'endormir, mais bon, je pense que c'était le mal lyonnais, surtout sous Bruno Genesio. Mais ça, c'est mon avis. Je l'ai vu faire des matchs
avec Silvinho, oui, c'était bon.
Non, mais je l'ai vu. Bah, il n'était pas là.
Non, mais les choses sont très simples pour ce garçon s'il doit signer au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que l'entraîneur ou Leonardo doivent identifier ses problèmes et lui dire voilà, nous, tu nous intéresses, tes qualités, elles sont indéniables, mais nous, on te veut au Paris Saint-Germain, mais il faut que tu progresses dans tel et tel domaine. Est-ce que tu es prêt à faire les efforts pour être ce joueur-là?
Mourinho doit lui répéter tous les matins.
Oui, mais c'est pour ça qu'à bout d'un moment, il faut avoir
une question.
Il faut avoir un discours. Il faut avoir un discours de vérité avec le garçon. Et si le garçon n'est pas capable de faire ça, et lui dire, écoute, c'est tout simple. Ce qui s'est passé à Tottenham, tu le vivras au Paris Saint-Germain. Tu ne joueras pas à nouveau. Même au moment autre, il va falloir lui fixer une limite, des règles à ce garçon pour qu'il comprenne sa marge de progression. Et peut-être que si c'est Leonardo ou Tourelle qui lui disent, peut-être qu'il comprendra parce qu'il estime que Mourinho n'était pas gentil. Le pauvre Mourinho, il n'était pas gentil. C'est vrai qu'il n'est pas gentil, Mourinho. Il n'est pas gentil, il a autre chose à faire. Et puis c'est dans sa nature, et puis c'est dans son management. Il est comme ça. Mais c'est au garçon d'avoir le déclic. C'est à lui de comprendre. Parce que ça se trouve, Mourinho, quand tu lui dis, voilà, ça va pas. Mais le gamin, il dit, bah, écoute, moi, j'ai rien à foutre. Moi, de toute façon, je suis un bon joueur avec le ballon. Je sais faire plein de choses. Tu comprends rien. C'est ça qui est intéressant de savoir comment le garçon réagit à toutes ces critiques de Mourinho. Il est là le problème. Est-ce qu'il a envie d'aller au-dessus et de les comprendre?
Sur ce qu'on lit,
Christophe. Mais est-ce que les dés sont pipés aussi, du gars? Tu sais, on ça on sait
quoi,
pas.
Ça veut dire quoi,
les dés sont pipés? Ça veut dire que peut-être qu'il l'a aussi dans le pif, Mourinho, et que aujourd'hui il essaye de le piquer, et il voit que ça fonctionne pas. Il cherche pas d'autres choses. Peut-être qu'il y a eu aussi, et je pense qu'il y a eu une remise en question.
C'est pas Mourinho qui l'a recruté.
Il faut pas l'oublier. Ouais, il y a un tout. Il y a une évolution de choses qui aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un point de non-retour.
Oui, capitaine, il a dit. S'il était si fort que ça, Mourinho, même s'il le détestait, s'il
aimait,
il le ferait jouer.
Mais du gars, tu te fous de moi ou quoi? Tu regardes Tottenham, tu les vois les matchs de Tottenham, tu crois que tous les milieux de terrain ils sont super bons à chaque fois? Mais arrête un peu. Attends, ils ont gagné 2-0 le dernier match, ils ont été nuls à chier.
C'est pour te dire s'il est pas bon, Ndombele. Parce que pour ne pas être titulaire dans ce milieu de terrain, il faut vraiment pas être bon.
Excuse-moi, Jean-Louis. Jérôme, on se calme. Je suis encore la star pour une dizaine de jours. S'il te plaît, tu te calmes. Merci beaucoup. L'émission s'appelle comment?
C'est encore mon émission, tu peux dire.
C'est vrai que c'est ça.
Oui, mais je suis la star de l'émission. Je suis pas la star planétaire, je suis la star de l'émission.
Celle-là, lors de l'Arc et Foot, je l'ai jamais fait.
Ah, jamais, bien sûr.
Celle-là, je l'ai jamais fait.
Évidemment.
Parce que, tu sais pourquoi, capitaine?
Je me demande ce qu'on fout là, t'aurais dû faire tout seul l'émission.
Parce que pour toi, c'était évident, capitaine. T'étais la star et t'avais pas besoin de le préciser. Moi, j'ai encore au bout de 4 ans besoin de le dire. C'est fou.
C'est peut-être problématique.
Il va nous faire chier.
Alors, juste sachez quand même que ça joue en Angleterre à 19h. Il y a notamment Southampton Arsenal. Sachez que Guendouzi n'est même pas dans le groupe. Même pas dans l'équipe, dans le groupe. Il n'est pas remplaçant. C'est très tendu. En revanche, du gars, tu peux te mettre le match parce que Chaka est titulaire. Tu vas pouvoir te régaler comme à chaque match d'Arsenal.
T'as pas confondu Chaka et Saka.
Les deux sont là, donc c'est bon. Mais en tout cas, le joueur chouchou du gars, c'est Chaka.
Je vais casser ma télé. Je préfère pas regarder le match, je vais casser ma télé.
Oh là là, c'est à 19h, on pourra le suivre ensemble et tout ça va être génial. Dans un instant, le PSG qui surpaye.
J'ai dit ça, je suis sûr qu'il va marquer de loin. Tu vas avoir une frappe de loin, il va marquer Chaka. Tu vas voir.
C'est possible. S'il fait une passe vers l'avant, déjà, ce sera. T'auras fait taire.
Bah, une frappe et un but vers l'avant.
Les deux, c'est fou. Dans un instant, le PSG qui surpaye ses joueurs. Est-ce là la plus grande erreur des dirigeants? 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h34, Tim Dugas continue avec Jean-Louis Tour, avec Jérôme Rotten, avec Capitaine Larquet. Ça va être le moment de parler
du PSG. Et du journal moyen avec Adrien Aigouin qui est avec nous. Salut Adrien.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Adrien.
J'ai un casting de folie dans le journal moyen. J'ai Sharon Stone, j'ai Didier Raoult, j'ai Jean-Louis Tour, j'ai Frédéric Hermel. Les stars se bousculent dans le journal moyen. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est le festival de Cannes aujourd'hui. Merci Jean-Louis.
Voilà. On aura plus que deux minutes. Je te le dis tout de suite pour le journal moyen tout à l'heure. Merci Adrien. Le PSG donc tout de suite. Mohamed Bouafsi nous rejoint. Bonsoir Mohamed.
Salut Dugas. Salut Jean-Louis. Salut Mohamed. Salut Jérôme. Salut Jean-Michel.
Alors on le sait depuis très longtemps, le PSG donne des salaires très généreux à ses joueurs. Parfois peut-être trop généreux. généreux. Est-ce là la plus grande erreur des dirigeants? 32-16 pour en parler. Alors, on cerne le débat, surtout sur les joueurs de deuxième catégorie, pas forcément les stars absolues, même si on pourrait dévier, hein, comme vous voulez. Mais l'exemple du moment, c'est Draxler, Mohamed, donc, puisque lui considère que la soupe est bonne à Paris, et qu'il va aller au bout de son contrat.
Oui, il lui reste un an de contrat à Julian Draxler. Il considère clairement qu'il est heureux à Paris. Tu l'as dit, Jean-Louis, l'expression est très bonne pour le PSG. La soupe est bonne pendant des années. Certains joueurs, est-ce qu'on peut dire du gars moyen comme Julian Draxler par rapport au niveau de compétitivité du PSG ont été surpayés? On s'en est rendu compte notamment lors de son arrivée, 42 millions d'euros de transfert, hein, Julian Draxler, quand il arrive depuis l'Allemagne. Et donc là, en clair, il n'a pas de club, j'ai envie de dire, à la hauteur du PSG, à la hauteur du salaire qu'il touche au PSG. Il a un intérêt très concret et le Hertha Berlin adorerait le récupérer, mais pas au montant qu'il touche actuellement. Donc on est dans une situation assez fermée où lui n'a pas envie de partir. Il est très heureux à Paris, il adore la capitale. C'est une expression que Jérôme connaît très très bien. Quand on adore la capitale, c'est qu'on adore qu'on n'adore pas le musée du Louvre ou le musée d'Orsay, ouais. Quoi. Voilà, c'est qu'on aime bien la ville et donc il a envie de rester au PSG tant qu'il n'a pas trouvé de plus gros club. Et ça met le Paris Saint-Germain dans une situation assez compliquée, assez particulière.
Alors Dugas, là on se retrouve dans les problèmes dont on parle depuis longtemps. Non, dans ces
oui,
cas-là.
Mais après c'est un débat difficile, mon Jean-Louis, parce que c'est quoi? C'est l'offre et la demande. Quand tu achètes un joueur, quand tu le payes, quand parfois tu le surpayes. Si Draxler était titulaire et était performant, on serait pas choqué par le salaire et on dirait pas que la soupe est bonne. Le problème c'est que tu sais que les joueurs sont trop payés le jour où ils s'en vont, le jour où ils partent, ou le jour où ils sont transférés. Parce que si t'avais transféré Draxler pour 100 ou 150 millions d'euros, voilà, t'aurais dit, bon, en définitive, il n'était pas si payé que ça, parce qu'il va être beaucoup plus payé ailleurs. Là, ce qui est bizarre, ce qui paraît être bizarre, c'est que les joueurs qui sont au Paris Saint-Germain, on n'a pas le sentiment qu'ils seraient capables de pouvoir, qu'ils pourraient gagner plus ailleurs. Donc c'est pour ça oui. qu'on a ce sentiment que la soupe est bonne et qu'ils sont surpayés.
J'en profite parce que Thomas Meunier, ça a été officialisé à Dortmund oui. également aujourd'hui. Est-ce qu'il va gagner autant à Dortmund? On sait ça ou pas?
Il va gagner le même prix le même salaire qu'il avait à Paris. D'accord. Quasiment. Bon, parce que Meunier est arrivé quand même du club Bruges où il gagnait pas beaucoup d'argent au club Bruges. Donc d'accord. Là, c'était une discussion portée par Olivier Létang, c'était pas un salaire
astronomique. Voilà,
oui,
il
était pas surpayé.
Oui, mais là c'est quand même à peu près normal, c'est-à-dire qu'il a il a aussi progressé, il est devenu international belge, il a joué au Paris Saint-Germain, il a été souvent titulaire. Il est libre, il n'y a pas d'indemnité non plus à donner. C'est pas illogique. Après, il a un salaire effectivement de défenseur qui est élevé, mais aujourd'hui, c'est parti très très haut les salaires et on a l'impression que les joueurs du PSG, y en a qui partiront jamais.
À la fin du contrat, quoi.
Ah ben oui.
Alors Jérôme, sûr. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un vrai problème ça pour le PSG? Jérôme Bretagne.
Dès qu'on parle aux ailes, il se barre. C'est fou ça.
Bon, on n'a pas Jérôme.
Non, je sais pas ce qui se passe.
Julien, notre réalisateur a pas l'air du tout paniqué, mais il nous regarde genre tout va bien les gars. C'est, je pense qu'il a remis Jérôme à l'antenne.
Bah, c'est bon là, non?
Voilà Jérôme, allez vas-y.
J'étais pas à l'antenne.
Oui.
Non, c'est bon. Non, le souci sur certains joueurs du PSG, il existe sur pour les attirer, il fallait donner plus d'argent. Ça a été le cas de Thiago Silva quand il est arrivé, ça a été le cas de plein de joueurs. Draxler, c'est aussi dans ce cas-là, parce que Draxler, il faut pas oublier que quand il arrive de Wolfsburg, c'est aussi un jeune joueur international allemand avec beaucoup de force,
de potentiel
en Allemagne, une bonne réputation. Donc oui, c'est un transfert. Ils ont mis l'argent. L'argent du transfert va aussi avec ce qui touche tous les mois. Mais aujourd'hui, on peut après 3 ans ou 4 ans au PSG être déçu de l'apport de Draxler parce que cette année son temps de jeu il a été réduit de quasiment de moitié. Je regardais les stats en général c'est 30 matchs titulaires sur les deux dernières saisons. L'année dernière c'est à peu près 15 matchs titulaires seulement.
Il fait pas beaucoup de sprints lui aussi. Hein.
Non mais c'est vrai, t'as raison. Très peu de buts, très peu de passes décisives. Pourtant c'est un joueur de qualité donc ouais il y a une déception. Mais donc que le PSG veuille s'en séparer, ça me paraît logique. Que lui soit attaché à son contrat, moi ça me dérange aussi parce que c'est encore un jeune joueur et je pense que il doit avoir la passion du foot. Et je pense que même s'il va ailleurs qu'au Paris Saint-Germain, il touchera bien sa vie.
Quand tu le vois jouer, tu peux te poser la question quand tu le vois jouer. La passion du foot.
Écoute, franchement, du gars, j'avais commenté la Coupe des Confédérations là en 2000. C'était quoi?
Oui, quand l'Allemagne avec son équipe jeune là, avec.
Il avait fait une Coupe des Confédérations. Il avait été le meilleur joueur de la compétition. Et franchement, j'ai jamais revu le Draxler de l'équipe nationale au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un problème. Donc, ça veut dire que il n'était pas fait pour le PSG de ce PSG là. Donc, c'est une erreur. Mais je suis déçu de son attitude encore une fois parce que je pensais qui serait plus focalisé par son temps de jeu et s'éclater dans un autre club.
Captain.
Écoute, il va avoir passé deux de ses plus belles années à être un intermittent du spectacle. Alors, la passion du football, moi, quand je sais que je connais des joueurs, quand ils sont blessés trois semaines, un mois, ils tournent comme des lions en cage parce qu'ils considèrent que de manquer 4 ou 5 matchs dans une saison, c'est terrible, qu'il leur manque quelque chose. Et puis, il y en a certains, comme Draxler, qui sont contents de faire 12 matchs, 13 matchs dans la saison, sur une saison qui en compte 60. Alors, je ne sais pas s'ils sont surpayés, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont surpayés par rapport à leur motivation. Ça, c'est une certitude. Comment un joueur qui est il doit être aux alentours de 27-28 ans, lui, non? Quelque chose comme ça.
C'est ça. Je vais te donner.
Comment,
c'est 27.
Comment un joueur qui attaque, on va dire, la deuxième partie de sa carrière de footballeur peut passer un an et demi, voire 2 ans, et que va-t-il se passer en 2020-2021 en jouant 13 matchs dans la saison, messieurs? C'est là où je suis en total décalage avec certains. Et là, ce n'est pas une question de payer ou trop payer. Évidemment que par rapport aux 13 matchs, vous vous rendez compte, il est plus payé que, enfin, peut-être davantage payé que Neymar.
Oui, bien sûr.
Bon, peut-être donc, il y a quelque chose... Non, peut-être pas, j'exagère, mais je le fais volontairement.
Il y a un problème de gestion, quoi.
C'est pas possible.
En tout cas, Jean-Michel, Leonardo a le même discours que toi, la même position. Il a été impressionné, négativement par les salaires de joueurs comme Draxler. On parle pas d'un autre joueur, c'est Paredes qui a un très 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 gros salaire au PSG, et lui expliquait, en tout cas en privé à certains membres du PSG, c'est que les très grosses stars méritent d'avoir des gros salaires.
Il faut gagner de l'argent au club, les autres.
Voilà, les joueurs moyens méritent un salaire moyen un salaire très important.
De toute façon, c'est le drame, c'est le drame du football.
Après,
le drame du
football. Quand il est arrivé, c'était un joueur important.
C'est pas un joueur moyen, voilà,
un joueur important.
Le problème, il arrive dans une situation quand même limite d'échec à Wolfsburg. Ils veulent le vendre.
On n'a jamais dit que Draxler avait été recruté pour faire franchir un palier au Paris Saint-Germain.
Alors là, Captain, on va reprendre
les déclarations, tu verras.
Ouais. Moi,
je pense plutôt du côté de
la pépite allemande.
C'est vrai, mon mec nous a dit que c'est une pépite
allemande. Là, je pense plus du côté de Jean-Michel parce qu'il arrive. Il était en guerre du côté de Schalke. Il était parti à Wolfsburg et c'était la crise. Et il avait dit à tous les supporters qu'il ne voulait plus vivre à Wolfsburg parce que c'était un enfer et qui voulait retrouver la capitale.
On va ressortir les podcasts, les articles et on aura cette conversation.
N'en dis pas trop, Mohamed, quand même, parce que là.
Le mot de la fin pour la star du gars.
Non, mais le problème du football. pardon, ça m'a échappé. Le problème du football, un des problèmes du football, c'est les joueurs moyens qui sont surpayés. Voilà, il est là le problème que les grands joueurs, que ceux qui te fassent gagner les matchs. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut savoir partir. Il faut savoir laisser la place aux jeunes et il faut savoir laisser la place à ceux qui sont beaucoup moins payés, qui vont accepter de faire le travail pour pas grand chose. Non, mais voilà, après, c'est. Il faut laisser sa chance au talent.
Bien sûr.
C'est pour ça.
Ouais. Merci, Mohamed.
Merci beaucoup.
On revient quand tu veux avec les articles.
Ça t'apprendra à m'allumer, tiens.
Non, t'inquiète pas, je suis très serein, moi.
Moi, je suis pour rien, en revanche, Julien.
Dis-tu d'auto-décréter la star, c'est tout, moi, je te lance comme ça, du coup, maintenant. On va faire ça pendant 2 semaines.
Appelle-moi comme tu veux, si tu veux.
Très bien.
Si tu veux.
Dans un instant, le journal moyen, Adrien Aigouin et tous ses amis, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h48, Tim Dugas continue avec Jérôme Rotten, avec Captain Larquet, avec Jean-Louis Tour et à partir de... c'est le moment du journal moyen.
Mais exactement, on y va.
Oui Dugas. À la une du journal moyen de Tim Dugas aujourd'hui sur RMC, Sharon Stone sera dans le journal moyen, Emmanuel Macron sera dans le journal moyen, Jean-Louis Tour sera dans le journal moyen, c'est le journal moyen des stars. Ouais, il connaît les stars, c'est comme ça. C'est le 343e journal moyen de l'histoire des teams du gars.
Tu vois que t'es une star, mon Jean-Louis.
Eh oui, bien sûr.
Je cherche pas ça.
Oh, tu l'aimes bien quand même.
Voilà. Non, pas du tout.
Générique.
Moi, je cherche à faire une émission dans une bonne condition.
Tu cherches à travailler avec le meilleur et accompagner le meilleur jusqu'au bout.
Si moi, je le connais, Jean-Louis. Vous pouvez pas être, vous pouvez pas savoir quand Jean-Louis Tour fait des selfies dans la rue quand on l'interpelle, mais comme il est content.
On va être un peu n'importe quoi. On fait jamais honte. Personne ne me connaît.
Générique journal moyen, du coup.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
Ça faisait longtemps, on se fait donc plaisir avec un jingle rallongé. On débute avec un bel instant Fred Hermel.
Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Espagnola. Il faut jamais critiquer Jean-Louis Benzema. T'es nul.
Mais qu'est-ce qu'il est fort, Griezmann.
Mais t'es nul, Di Maria.
Ils ont peur. Caca dans la culotte.
Di Maria, tu es nul.
Voilà, c'était les jingles un peu rallongés.
Ça, c'est un mec normal.
C'est Fred Hermel.
Il a le droit de vote. Il est, enfin, voilà.
Je vous conseille le nouveau podcast Génération After, présenté par Baptiste Le Caplin. Le principe est très simple. On fait le portrait de chaque membre historique de l'After. J'ai écouté l'épisode consacré à Fred Hermel, donc notre correspondant RMC à Madrid. C'est très bon. Ils lui ont demandé avant d'abord, est-ce que tu es d'accord pour parler de toi, Frédéric? Oui, apparemment, d'accord. D'accord. Donc, on met le podcast, on le prépare. Il était d'accord. Juste un petit extrait pour vous donner l'eau à la bouche. Gilbert Bribois explique à quel point Fred est en place à Madrid. Un jour, Gilbert est à Madrid en Espagne pour un match. Fred lui propose d'aller boire un coup dans un bar. Et là...
Et donc, on sort, viens, je t'emmène à un coin, je connais. Et on arrive et tu prends dans le bar et il me dit, tiens, choisis un cocktail. Et là, t'as le cocktail Hermel.
T'as le cocktail Hermel.
Le Frédéric, voilà. Exactement.
Le fameux cocktail au nom de Fred. Et là, tu te dis, ah, le gars, il est en place. Quand même.
Ah, le gars est en place.
Il est en place. Un cocktail Frédéric. Ça, on l'a raconté pas mal de fois dans l'after. On connaît l'anecdote quand même. Tu demandes un cocktail Frédéric dans un bar connu à Madrid. Tu as, toi, ton cocktail. Mais avec Fred. On va toujours plus loin avec Fred Hermel. Là, on est dans 50 minutes inside. Il y a Nikos qui arrive. La vie des stars, anecdote, Fred Hermel sur son cocktail. Il n'y a que Fred qui peut nous raconter ça.
Qui est très bon et qui est. Que Sharon Stone a bu d'ailleurs. Parce que Sharon Stone est venue dans ce bar. Non, je ne plaisante pas. Sharon Stone est venue dans ce bar qui s'appelle Del Diego, qui est vraiment le bar le plus. L'un des plus historiques de Madrid, etc. Où tous les gens du showbiz, des politiques, le roi d'Espagne va, etc. Et Sharon Stone, un soir, est venue, recommandée par Viggo Mortensen, qui est un ami du patron. Et elle a commencé à boire des trucs. Elle me dit, fais-moi découvrir quelque chose. Elle dit au patron. Et il lui a fait servir un Frédéric, quoi. Donc, c'est vrai de vrai.
Et c'est vrai de vrai. Voilà, c'est la vie de Frédéric Hermel. Voilà, il y a Sharon Stone qui boit un Frédéric.
Le but, c'est de savoir si elle a bu jusqu'au bout, quoi.
Oui, peut-être qu'elle a pas apprécié, peut-être que c'était pas bon.
Mais je crois qu'à Troyes, il y avait le Roten dans certains bars.
Le Roten.
Non, il y a un bar, par contre.
Carrément.
Non, c'était chez le coiffeur qu'il y avait la Roten. C'était pour la coupe de cheveux, la coupe dégueulasse. Ils disaient, les gens, ils arrivaient, je voudrais une coupe comme Jean Roten.
Alors, Fred, d'ailleurs, qui profite, et là, c'est un moment magique aussi. Fred Hermel profite en toute humilité dans ce podcast pour mettre les choses au clair sur sa vie.
Il y a un truc que je voudrais expliquer, puisqu'on est dans ce moment-là où on parle de moi. C'est en fait, les gens pensent que j'invente. Je vous jure que j'invente rien. Oui. Ces trucs-là m'arrivent vraiment. J'ai une vie de dingue. C'est vraiment, c'est. Non, mais les gens disent, bah, t'as parlé à ta. Ouais, il y a des présidents qui m'appellent. Oui, je parle avec des mecs. Oui, je vois. Ces gens-là, je les connais vraiment. Quand Cristiano Ronaldo, il passe en zone mixte du match contre l'Atlético où il squeeze 100 journalistes, il me voit, il va me dire bonjour. Je vais pas lui cracher à la gueule quand même.
Et voilà, c'est la vie de Fred Hermel quand Cristiano Ronaldo passe devant un journaliste, il s'arrête sur un mec. Voilà.
Il y a Dugas, il y a Fred Hermel comme star.
Mais surtout, faut rappeler à Fred qu'il n'y a rien d'exceptionnel d'avoir des présidents. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'incroyable d'avoir des présidents. C'est pas parce que t'as. Il y a des présidents qui t'appellent que t'as une vie incroyable. Il y a des choses bien plus intéressantes que de se faire appeler par des présidents quand même.
Le podcast.
Quand on bosse dans un club, c'est plus facile.
Mais pour des journalistes, c'est important quand même.
Ouais, mais c'est pas pour ça que t'as une vie exceptionnelle. Non, mais attends.
Tous les journalistes sont pas ambassadeurs. Dehors d'un club.
Non, ça c'est vrai. Mais vous êtes. Dugas, t'es blasé, mais parler à des footballeurs, c'est quelque chose de. Ils se sont privilégiés pour ça.
Privilégiés, oui, mais c'est pas pour ça.
Quand il répond au téléphone, c'est un truc exceptionnel.
Non, mais mon poulet, avoir une vie exceptionnelle, excuse-moi, mais ça me paraît pas être ça. Avoir une vie exceptionnelle, c'est profiter de ta famille, c'est profiter des vacances,
c'est
profiter
que lui,
de.
C'est ça,
voilà, c'est pas avoir des présidents au téléphone.
Un dernier mot, mon Fred, juste parce que là, ça part en débat sur Fred Hermel, c'était pas
le but. Il a piqué, mais il est con, ce Vinicius.
Voilà, bon, sans transition, le générique, s'il vous plaît, qu'on connaît bien. Incroyable ce matin. Je pense
mais on
que
plus le temps, là. C'est bon,
pas
allez.
Pu y échapper. Jean-Jacques Bourdin recevait le professeur Didier Raoult. Ça fait longtemps qu'il voulait le recevoir. Deux caractères très forts. Il y a eu un moment un peu chaud.
on ne tue pas des gens. Écoutez, vous allez me le répéter 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord ?
Ce serait une erreur.
Non, je m'en fiche de vous. Vous savez, oui, de votre plus grand, je m'en fous. Donc bon, si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous.
Bon, alors allez-y.
Vous l'avez bien compris ?
Allez-y.
Vous m'en
allez-y. Allez-y, de nombreux professeurs de médecine. Allez-y, allez-y. Partez, ne partez pas. J'ai des questions à vous poser.
Grand moment de radio. Il n'est
partez,
pas parti.
Ne partez pas.
Ça s'est bien terminé finalement. Il manquait quand même quelque chose parce que quand c'est chaud entre deux débatteurs, oui, il manquait quelque chose. Ouais. Il manquait le talent de Jean-Louis Tour pour arbitrer ce débat. Le Jean-Louis Tour qu'on aime bien dans Team Dugas.
J'osais pas le dire.
Donc on a ajouté Jean-Louis Tour et ça va beaucoup mieux du coup.
On ne tue pas des gens. Écoutez, vous allez me le répéter 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord ?
Ce serait une erreur.
Ça ne sert absolument à rien ce que vous faites.
Non, je m'en fiche de vous. Vous savez, de votre plus grand, je m'en fous.
Ça sert à rien de faire un petit combat d'ego. Ouais.
Donc si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous.
Bon. Je vais me lever.
Alors allez-y.
Je vous préviens, je me lève.
Vous l'avez bien compris.
Allez-y.
Je me lève.
Allez-y, de nombreux professeurs de médecine, allez-y.
Je suis entre vous deux.
Bah, partez, ne partez pas, j'ai des questions à vous poser.
Vous faites votre petite bataille, votre petit truc, passons à autre chose.
Ça va beaucoup mieux quand Jean-Louis Tour est présent pour arbitrer les débats. Bravo Jean-Louis.
Bravo Jean-Louis.
Ça,
bravo,
ça me manquera quand même. Depuis avoir du gars tout rouge qui n'écoute rien à côté.
Ah, parce que tu penses que l'année prochaine, t'auras pas à faire ça. T'auras pareil, la même chose.
Pareil.
Tu penses, mais Eric, il trouvera quelqu'un d'autre sur qui gueuler.
Ah,
tu
vois,
t'auras les mêmes problèmes.
Je suis pas sûr. Il y aura pas un fou furieux.
Il est tellement dingue, tu verras.
Merci Adrien pour le Journal Moyen. À demain dans Rotten Régal.
Tu t'en es bien sorti, Jean-Louis. Tu t'en es bien sorti.
Ouais, ça va. Écoute, je le travaille au corps toute la journée aussi pour ça.
Il voulait pas le faire au début. Hein.
Non. Jérôme, merci. Bonne soirée. On te retrouve dans l'after ce soir à 22h et demain 18h dans Rotten Régal. T'as déjà plein d'idées de sujets, j'imagine.
Oui, ça y est, il est déjà fait.
Oui, très bien. Allez, merci. À demain.
Allez, à demain.
Dans un instant, la grande Espagne de 2008 à 2012. Est-ce que c'est le modèle à suivre pour toutes les sélections? 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, les amis, 19h03. Tim Dugas continue dans sa deuxième heure avec Jean-Louis Tour et Captain Larquet. Toujours présent, messieurs.
On est là. Enfin, moi, en tout cas.
Captain.
Ouais, moi aussi.
Ah, bon, très bien.
Ah, très bien, moi, Jean-Michel. Nous accueillons Fred Hermel, Julien Cazard et Gilbert Bribois. Salut, les copains.
Hola, chicos.
Salut, tout le monde.
Oh, le triplette que ça fait d'un coup, là. Cazard, Bribois, Hermel, là, c'est. Ouf.
C'est fou.
Il y a quelques heures de boîte, là. Hein.
Que des bons remplaçants.
Moi, je suis très ému de participer à une des dernières émissions avec Tim Dugas et Captain Larquet.
Ah, ben, Captain Larquet ne part pas.
Pourquoi tu es viré?
Non, mais avec du gars.
Oui, il y a encore 2 semaines ensemble, derrière.
Bon, j'espère que Jean-Michel sera encore là dans 20 ans.
Alors,
il nous enterrera tous.
Alors attends, Gilbert, il y a encore 2 semaines de Team du gars. Et puis, à l'image de Captain Larquet, les comebacks sont possibles.
Oh, j'en étais sûr.
Il veut faire comme Jordan. Il veut partir pour
comme Zidane.
Zidane pour un comeback au 15 octobre.
Ouais. Tu veux dire que comme Jean-Michel, je vais me faire chier à la maison. Tu veux dire?
Ouais, c'est possible, du gars.
Parce que là, t'aimes ta famille parce que tu les vois jamais.
Oui, parce que le conseil de profiter de sa famille, ça dure pas assez, ça dure un peu, puis après.
C'est bon, mytho, hein.
Si vous n'aimez pas votre famille, n'en dégoûtez pas les autres. Incroyable.
C'est pas parce que t'aimes pas les brocolis, hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. Capitaine, une réaction?
Non, aucune. Moi, je me sens bien et je sais pas si. Il s'emmerderait, mais moi cet après-midi, tu vois, je croyais passer un bon moment et j'ai pris une telle branlée au golf que finalement.
Ouais, c'est pas ça. C'est
mieux
de
faire la radio.
T'as joué contre
j'aurais mieux fait de rester à la maison. J'avais pris une bonne. Mais une bonne.
Ah bon, tu continues l'année prochaine, capitaine?
Le golf ou
quoi? Le golf, oui, ça c'est sûr.
Non, la radio.
Bien sûr.
La radio?
Ouais. Oui.
Et je suis comme Draxler, on me demande la soupe est bonne.
Ouais, mais t'es autrement plus motivé que Draxler quand même. Tu le mérites.
Ah oui.
Ouais, mais plus. C'est pas difficile d'être plus motivé que Draxler. Et ça, je te le dis tout de suite. Hein.
Bon, dans l'heure qui vient, on va revenir en détail sur la grande Espagne de 2008 à 2012. On va revenir également sur les individualités qui composent cette grande Espagne. Aucun de ces joueurs, les Iniesta, Xavi, Ramos, Piqué, ne gagnera le Ballon d'Or. Alors peut-être Sergio Ramos, on sait jamais, mais en tout cas, pour l'instant, aucun d'entre eux n'a gagné le Ballon d'Or. On s'interrogera là-dessus également. Et puis, il y aura le blind test tout à l'heure. 32-16 pour vous inscrire. Alors, on va se tourner évidemment vers Fred Hermel pour débuter. Cette grande Espagne, donc, le premier titre, c'est 2008. Comment tu pourrais qualifier l'avant, ce qui s'est passé avant, jusqu'à cette victoire à l'Euro 2008? Quel souvenir tu en as?
C'est un pays qui ne regarde que très peu sa sélection. C'est un pays ultra club et qui a l'habitude de voir sa sélection perdre en huitième de finale ou en quart de finale. Voilà, c'est...
Il y a... Alors qu'elle fait partie toujours des favorites.
Des favorites, c'est-à-dire qu'elle fait des qualifs en général en gagnant tous les matchs, en terminant première de son groupe. Et puis arrive la phase finale. Alors pendant la phase de qualification, très peu de gens et les médias s'intéressent à la sélection. Hein. Y a pas le phénomène de la Roja. D'ailleurs, la Roja est une invention de Luis Aragonés hein, pour essayer de donner un petit peu d'identité. Hein, parce qu'on disait jamais la Roja, la rouge. Il essaye de créer un mouvement autour de cette équipe, créer une sorte de... Ouais, d'allégresse dans le peuple espagnol autour d'une équipe, alors que les mecs, ils sont du Barça, ils sont du Real, ils sont de Valence, voilà, ils sont pas très sélection. Et puis arrive la phase finale, comme les gens aiment le foot, ils regardent, et puis ils se font taper. Alors il y a un grand traumatisme quand même, c'est 2002, hein, c'est la Coupe du Monde avec le match volé face à la Corée, oui, avec l'arbitre, monsieur Al-Ghandour, l'arbitre égyptien, qui est un truc, mais enfin, c'est l'un des sommets.
Mais quand c'est pas pour le Real, c'est sûr que c'est plus choquant.
Bah, puis surtout, c'est moins courant, c'est ce que tu veux dire. Ouais, donc ça étonne plus. Voilà.
Moi, j'ai fait au match, j'ai rien remarqué. Hein. Ah.
Tu t'es pas dit, il y a pas mieux qu'un arbitre égyptien pour arbitrer ce match?
Non. Bah non, ça c'était pour Jean-Michel.
Oui, très bien.
Et donc, voilà.
J'adore l'Égypte. Ma mère est Alexandrie.
Et puis, il faut. Ah, comme ça. Et puis arrive 2008, et là il se passe quand même, on a totalement oublié cet épisode, mais 2008 ça commence par un grand nettoyage.
Oui, Raoul qui n'est pas là.
Raoul, Salgado, il y a toute une génération de mecs qui avaient un énorme pouvoir. Et
Raoul, il n'est pas à Marseille, je comprends rien moi.
Raoul,
oh là là, pas bien. Alors attends, déjà, je sais pas si
tu vas vraiment nous manquer en fait.
Excuse-moi, j'ai fait un truc sur le sujet.
Excusez-moi, suite à pourquoi, pourquoi il est déjà là le mec du blind test?
Bon, vas-y Fred, reprends.
Mais donc, non, mais c'est, il faut voir le traumatisme que ça représente, parce que Raoul, c'est quand même le mec le plus puissant du foot espagnol à ce moment-là.
Ah oui, je sais.
Donc, c'était une décision très, très courageuse, finalement, de Luis Aragonés, qui est un vieil entraîneur, déjà, un type assez antipathique, hein, je l'ai bien connu, hein, c'était pas quelqu'un de très gentil, oui. Mais qui avait...
Mais que Sharon Stone ou pas?
C'est pas le même genre, c'est pas le même genre. Et tu parles de mon cocktail, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'était juste avant le journal moyen, en fait. Adrien l'a pris dans le journal moyen juste avant, c'est pour
ah
ça.
Ah oui, c'est pour ça. Et donc, en fait, Luis Aragonés, mais comme il est détesté par... Enfin, il n'est pas très sympathique, etc., on ne peut pas dire qu'il y a une grande cote et tout, mais il arrive à créer quelque chose autour de lui avec les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équipe un peu commando. C'est-à-dire que les joueurs disent, ouais, le mec, il a osé faire partir Raoul, Salgado et ces types-là qui avaient beaucoup de pouvoir au sein de la sélection. Et donc, il y a une sorte de... Je sais pas, d'union, de commando, etc. Et puis, y a un gardien qui s'appelle Casillas, qui fait des arrêts extraordinaires au moment où l'Espagne doit perdre.
Et Fred, attends juste avant, il y a un truc quand même important, c'est qu'il y a aussi les deux capitaines du Real et du Barça qui ont envie que l'Espagne gagne, Casillas et Xavi.
Voilà, ça aussi, c'est tout à fait raison, parce que ce qui provoquera après du temps de Mourinho une grave crise, hein, entre Mourinho et Casillas, hein, Mourinho le traitant même de traître, parce que lui, il appelait Xavi pour essayer, quand c'était vraiment très exacerbé entre Mourinho et Guardiola, entre le Real et le Barça, Xabi Hernandez et Casillas, ils se connaissent depuis qu'ils ont 13-14 ans dans les équipes de jeunes espagnoles, sont très amis, et eux aussi, ils ont envie vraiment de faire quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se crée au sein du groupe. Et puis aussi, on va pas cacher les choses. Il y a quand même Luis Aragonés qui, humainement, est pas forcément un mec très sympathique, mais c'est quand même le mec qui fait jouer Iniesta et Xavi ensemble. Ils l'ont oublié à Barcelone. Mais le premier qui leur fait confiance tout le temps dans la même équipe, dans le même 11, c'est Luis Aragonés.
Ah oui, en 2008, c'est pas le cas à Barcelone.
Ben non, c'est-à-dire que c'est lui qui... Alors, il joue parfois, mais celui qui les installe totalement dans une équipe titulaire, dans une phase finale, dans les matchs importants, c'est lui. Mmh. Et là, c'est génial, parce que c'est deux joueurs qui se révèlent totalement complémentaires et qui vont dominer le football pendant de nombreuses années. Alors, Fred, simplement une petite phrase par rapport à ça. Je sais que les joueurs du Real et les supporters du Real n'aiment pas qu'on rappelle ça, mais la victoire de la sélection, c'est aussi la victoire de la Masia, du centre de formation du
Barça. 2008, Fred.
Bah,
2008, il y a que 3 Barcelonais dans les 23.
Il y a quand même Iniesta, Xavi, Puyol.
Excuse-moi,
c'est tout.
Fabregas.
Non, il est à Arsenal.
Non, mais il est
formé au Barça.
Non, mais c'est le style. C'est le style de jeu.
C'est que
Fred a raison.
Honnêtement, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont 7 ou 8 dans les autres compètes, mais sur celle-là, ils sont que 3.
Ben oui, ensuite, non, avec les arrivées de Busquets, de Piquet, effectivement.
Voilà, Villa, c'est plus Pedro. En 2010, c'est en 2012, vrai, mais moi, je
bon, il y a quand même. Oui,
mais c'est la victoire du style Barça.
Alors voilà, mais justement. Mais alors,
c'est le milieu de terrain qui compte. C'est le milieu de terrain qui compte.
Et comme ça, Captain et Duga vont pouvoir intervenir aussi, puisque on ne peut pas parler de cette hégémonie espagnole sans parler du jeu, Duga. Ça a dû te plaire de voir ça en sélection, de voir l'équipe qui domine son sujet, qui gagne à la fin.
Oui, bah après c'était nouveau, même si on avait vu du côté du Barça, on pensait pas, et d'ailleurs souvent les sélectionneurs nous disent on n'a pas le temps de travailler pour mettre en place le jeu. Donc là on a eu l'impression que c'était le jeu d'une équipe d'un club qui se mettait en phase dans la sélection. Donc c'est vrai effectivement assez impressionnant. Après rapidement ça a fonctionné parce que ça a permis de gagner. À partir du moment où ce jeu ne permet plus de gagner, ce qui s'est passé ces dernières années, ça devient aussi par moments un jeu assez ennuyeux. Mais la question c'était de savoir est-ce que ce jeu du Barça sans Messi pouvait se mettre en place. Et là l'Espagne a réussi à le faire et a mené cette équipe à gagner. Donc ça a été pour moi dans mes souvenirs le meilleur football que j'ai pu voir qui permet en plus de gagner, où tout était allié, et le style et la victoire. Et moi j'ai adoré mais vraiment regarder cette équipe d'Espagne avec, c'est vrai, en tête de gondole, c'était quand même ce duo Xavi Iniesta qui faisait beaucoup de choses.
Captain. Alors Fred, vas-y.
Juste simplement, oui, pour vous dire que c'est vrai que il est très rare d'identifier le jeu d'une équipe nationale. Alors je vais pas aller très très loin, mais je vais aller quand même un tout petit peu loin. La dernière qui avait été véritablement identifiée par rapport à son jeu, c'était celle des Pays-Bas de 74 et 78, qui ressemblait à l'Ajax qui avait régné sur l'Europe en 70. Autrement, même l'équipe d'Allemagne qui a été championne du monde avec un gros gros effectif du Bayern Munich en 74, on peut pas dire qu'elle ait subjugué les foules par son style de jeu, voyez-vous. Pas davantage l'Angleterre de 66. C'était qui c'était Manchester peut-être le club le plus à l'époque le plus en pointe. Bon, mais c'est vrai que l'Espagne avait un jeu que l'on identifiait clairement. Mais tout à l'heure vous parliez des Barcelonais. Alors vous parliez que de ceux qui étaient à la Masia, parce que le dénommé je vais pas dire Villa, l'avant-centre, il jouait bien à Barcelone.
Alors pas en 2008 en fait.
Il est pas formé à Barcelone. Non,
surtout il joue assez peu en 2008. Il est vraiment titulaire en 2010, David Villa. L'équipe de 2008, si vous voulez, c'est Casillas dans les buts, Ramos arrière droit, Marchena, Puyol, ouais, Cap de Villa, Senna, Xavi, Fabregas, Iniesta, Silva et Torres. Voilà, qui marquera en finale. Voilà.
Silva, je vous parle de Silva.
David
Silva. Villa, oui, oui.
Ouais. Ah oui, bah pardon, excusez-moi.
Et oui, on l'a oublié.
Vous êtes sûr que vous allez le garder pour l'année prochaine? Il est cramé, là, non? Il est un peu cramé.
C'est vrai que David Silva, il était. Il a marqué cette époque, c'est un très bon joueur, David
Alors,
Silva, quand même.
Hein. Gilbert, non,
je comprends, parce que Villa, c'est aussi David.
Oui, vas-y, Julien.
C'était plus facile pour le sélectionneur de les mettre ensemble, Xavi Iniesta, parce qu'au Barça, t'avais Deco et Ronaldinho, quand même. Donc c'était peut-être, tu vois, au niveau des statuts, Iniesta, c'était le petit jeune qui monte.
Bien sûr,
cette image un peu de gamin. Et puis, moi, je me rappelle à l'époque, moi j'écoutais déjà l'After, et tu disais que le mec avait beaucoup compté aussi, c'était Marco Senna.
Alors oui.
Parce qu'il avait amené quelque chose au milieu de terrain qui manquait toujours à l'équipe d'Espagne.
Et
dans le côté.
De très bons souvenirs, et c'est exactement Marco Senna qui avait été naturalisé. Espagnol, il est brésilien au départ, Marco Senna.
Exactement.
Et Marco Senna, en fait.
Qu'est-ce qu'il était à Villarreal, lui, non?
Villarreal. Il avait toujours manqué à l'Espagne ce milieu défensif, enfin un Claude Makélélé, quoi. Voilà, pour être clair.
Alors Gilbert, aussi tu t'es régalé en voyant cette Espagne?
Alors je vais expliquer pourquoi. Je me suis pas forcément régalé tout le temps. Déjà, je trouve très intelligent, parce que souvent les sélectionneurs, ils veulent un peu, ils disent oui, moi j'ai mon style de jeu. Ça, c'est en fait c'est une preuve d'intelligence du sélectionneur quelque part, de se dire attends, il y a ici une méthode qui marche, il y a un club qui fonctionne avec un style que je peux reproduire. Les mecs ont l'habitude. Moi, je dis chapeau l'artiste, plutôt qu'à essayer de faire le malin, à faire un truc qui va pas fonctionner ou qui serait ni fait ni à faire. Voilà. Non, moi, j'ai toujours eu un problème avec parce que ce style Barça. Moi, à l'époque, on l'avait dans l'After rebaptisé le style mouche tsetse. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'endors l'adversaire avec des petites passes à 2,50 m, là, du gars, il kiffe ça. Moi, je préfère le jeu un peu plus vertical.
Parce que c'était efficace. J'aimais parce que c'était efficace. Autrement, quand ça allait pas, ça m'ennuie. Hein. Gérard Delbar, ça joue en ce moment, ça me fait chier.
Parce que tu vois, quand il joue au handball devant la surface, en attendant que Messi fasse la bonne passe, au moment, tu allais dire oh coco, bah, on y va, quoi. Je joue au bout d'un moment.
Oui, t'as raison, Gilbert.
Oui, Iniesta aussi, elle a filé quelques caviar. Hein.
Et ouais, tout à fait. Tu vois, t'attendais, ça tournait, puis t'attendais qu'il y en ait l'un ou l'autre qui. Voilà.
Mais c'était tellement nouveau,
Gilbert. Si je puis me permettre, c'était un peu du football peine à jouir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça mettait un peu du temps.
T'as l'air d'être un spécialiste.
Ça mettait un peu du temps à arriver, quoi.
Tu connais le problème?
Mais c'est vrai.
Mais je pensais que t'allais vous parler, c'est pour ça que
j'ai été plus Real Madrid. C'est pour ça que Fred, il aime bien, c'est plus vertical. C'est plus vertical. Non, mais attends, Gilbert a dit un truc important. Il ne faut pas oublier que la finale, c'est-à-dire que quand l'Espagne gagne le mondial en 2010, ils gagnent leur match 1-0.
C'est-à-dire que c'est sans avant-centre.
Ouais,
toi,
avec un faux numéro 9.
À 2010, il y a Villa, mais c'est 2012 où c'est Fabregas effectivement qui joue.
Parce que il faut pas oublier que cette équipe d'Espagne est le champion du monde ayant marqué le moins de buts dans un tournoi.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'était une équipe qui était ultra offensive.
Donc finalement, elle a bien caché son jeu. Donc c'était une équipe qui était surtout puissante défensivement, finalement. Alors que,
de contrôle de la balle.
Alors que l'image de cette équipe d'Espagne 2008-2010, c'est de dire, ben, elle était flamboyante, elle marquait des buts, et là, tu es en train de nous dire le contraire, Fred.
Le contre-exemple, c'est le mondial 2010. Sinon, quand même, sur les 2 euros, ils sont assez flamboyants.
Oui, mais enfin, le gros titre, quand même, parce que l'Espagne avait déjà été championne d'Europe en 64, c'est quand même le mondial.
Disons qu'en phase finale, il n'y a que des victoires 1-0 de l'Espagne. Et en finale, c'est après prolongation.
Je me rappelle très bien de avant Euro 2008, dans l'after, où en fait, on chambrait Fred en permanence sur toi, de toute façon, l'Espagne, t'as rien gagné de ta vie, à part un pauvre Euro dans les années 60, si je me souviens bien, ils avaient ça avant.
64,
hein. Le seul Euro qu'ils avaient, enfin, le seul titre qu'ils avaient, c'était ça. Et à chaque fois, Fred, il disait ouais, bon, moi, normalement, dans 10 jours, je suis en vacances, les mecs. Hein, c'était le mois de juin, il faisait beau, tout ça.
oui, c'est vrai.
Et il y avait l'exemple 2006, où on a lancé l'Espagne très forte et qui est sortie en 8e par la France.
Comme quoi, hein, les choses se retournent vite.
C'est ça. Fred, tu voulais...
Non, mais c'est vrai que par rapport au style flamboyant, c'est-à-dire qu'il faut voir une chose, c'est il y a quand même le jeu en tenaille de récupération de la balle du Barça, qui est quand même... parce que c'est une équipe, même le Barça à l'époque, beaucoup plus défensive qu'on ne croyait.
Et ça, tu veux dire les gros pressings où tout le monde court comme des dératés,
Mais bien sûr, c'est-à-dire que...
Parce que le Barça a perdu depuis, d'ailleurs.
Un effet tenaille... pour récupérer la balle, qui a toujours été impressionnant au moment du Grand Barça et au moment de la Grande Espagne. Et puis, avec un Busquets, Busquets, c'est sur le terrain. Enfin, ça a été le meilleur milieu défensif du monde pendant de nombreuses années. Là, il est un peu vieilli, quoi. Mais c'est-à-dire, l'Espagne avait
des. N'exagère pas. Le Busquets, c'est un bon joueur, le meilleur défensif du monde.
Attends. Busquets.
T'as raison, Fredo, tu t'emballes un peu là. Tu t'emballes un peu, Fredo.
Je sais pas ce qu'il vous faut, franchement.
Là, c'est non, mais tu veux te rattraper par rapport à
l'histoire ou à son poste?
Pardon?
Au moment de 2010 ou dans l'histoire? Tu disais le meilleur 6.
Moi, oui. Non, à l'époque, je dis que Busquets à ce moment-là, à l'époque, c'est le meilleur.
D'accord.
Dans un système qui favorise, parce que le fait, c'est quand t'as le ballon, c'est plus facile de le récupérer quand ta logique, t'as moins le récupérer quand ta logique à toi, c'est de garder la balle. Mais ça, c'est vrai, quoi. Mais quand même, Busquets, on peut pas lui retirrer l'importance. Busquets, Xavi, Iniesta, enfin, on faisait pas mieux au milieu de terrain.
Eux, ils préféraient tout l'allant à l'époque. Voilà, laisse-leur, hein, si tu veux, c'est une autre façon de voir le foot.
Et pourtant, je suis pas fan du personnage, mais.
Ce sarcasme ne va pas me manquer, je te le dis de suite.
J'imagine.
Ceci dit, je vais te dire un truc. Oui. Louis Aragonès, il a quand même rien inventé parce que le faux neuf, on l'avait en 98, il était faux neuf, faux
7, faux joueur à l'arrivée.
Le pauvre Luis Aragonés, il s'est pris, je pense que c'était toujours et encore lui, c'était en 2006, lors du France-Espagne, où il a fait jouer 3 avant-centres dans la même équipe.
Ah non, d'accord.
Vous voulez
que
je vous raconte un truc
horrible? C'est bien ça, non, Fred?
T'es sûr?
Je crois qu'il y avait...
Contre la France?
Il y avait Torres, il y avait Raoul, il y avait...
Gilbert, toi qui as commenté le match.
Je sais pas, moi je me souviens que de Ribéry. Le reste, oubliez-moi.
Et Zidane, quand même.
Mais reprenez, c'est le match de Ribéry, la composition.
J'arrive. Du calme. Raoul, Fernando Torres...
Mais tu l'as pas préparé, ton équipe.
Si, Raoul, Fernando Torres et Villa, effectivement, les 3 en même temps. Voilà.
Mais vous me prenez pour... Moi, j'ai pas besoin, je sais pas me servir dans l'ordinateur.
Donc tu te sers ta mémoire.
Fred,
bravo,
fais
Captain.
Quelque chose,
Fred. Bravo, Captain. Mais on n'a pas le droit de jouer comme ça, là, les 3 ensemble, c'est interdit.
Non, mais Raoul, il jouait hyper reculé à cette époque.
Enfin, si tu veux, tu peux. tu peux jouer avec les trois, tu peux jouer aussi avec 10 attaquants et un gardien de but, hein, c'est, t'as le droit. Hein, c'est
bon, sûr. Très bien.
Ouais, ouais, m'agresse pas. Je vous raconte l'après-match quand Luis Aragonés, je le croise.
Bien sûr. Mais quand en 2008
Non, en 2006. 2006. En 2006, d'accord. Alors, moi à l'époque, je faisais aussi le mondial sur la télé espagnole. Et il y a Luis Aragonés qui est éliminé par la France et qui, deux jours après, vient au programme, quoi. Et on se connaissait, hein, depuis longtemps. Il s'approche de moi. Il me regarde comme ça, il me dit alors, Franchouté, c'est un mot pas très sympathique pour, oui. dire, pour dire le français. Alors, Franchouté, hein, je dis, désolé pour les oreilles chastes, hein, tu t'es chié dessus contre nous, hein, t'avais peur qu'on te batte, hein, hein, t'as eu peur, hein, t'as eu peur. Hein. Il était.
Et ça, ça t'a excité, je suis sûr que ça t'a excité, ça. t'as eu peur, hein.
Non, moi, c'est plutôt, c'est bien qu'on se frappe,
non,
c'est ça.
Non, mais arrêtez,
et,
oh.
Et ben, je te jure, mais pour dire, il était d'un mauvais perdant, mais c'était, c'était terrible, c'était pas vraiment un mec oui. sympa, donc.
Oui.
Bon, tu t'en fous dans l'anecdote.
Non, il était très bien. Mais,
ouais, non, mais non, on aurait préféré que Ulysse, qui a un cocktail qui s'appelle le Franchouté, dans un bar un peu interlope, et puis voilà, là, c'est plus
simple. Non, arrête, ça va très chic en face du congrès, il y a le roi qui y va.
Oh, le roi, t'as raison, c'est une bonne référence.
Bah, Philippe VI.
Ah oui, celui-là, oui, ça va.
Bon, alors, on va essayer
des
de
émissions et des historiens, c'est quand même quelque chose d'incroyable. J'apprends des choses.
Là, t'apprends des choses, oui. C'est là, fou, là, c'est vrai. Alors, on va revenir sur cette, certaines individualités, mais c'est, bon, c'est difficile d'en retenir une seule sur le, sur le, sur les trois victoires à chaque fois, même si certains sont quand même les marqueurs de chaque victoire. Ramos est là à chaque fois. Xavi est là à chaque fois. Iniesta également. Et après, c'est certains c'est rentrent, Casillas, bien sûr, dans les buts. Fernando Torres, c'est là, même s'il perd sa place de titulaire, il marque quand même sur les deux finales d'Euro et il est remplaçant en 2010, mais lui aussi. J'en oublie là, Fred ?
Je suis en train de voir, oui, parce que Capdevila, il part après. Marco Senna n'est même pas au mondial, il me semble.
Non.
Non, non, non.
Non, 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 non parce que c'est Busquets.
Non, mondial, il y a
blessé
de Barcelone.
Quelque chose comme ça.
Ah oui, il y a plus de Barcelone, oui, effectivement. Alors justement, on va revenir dans un instant sur ces individualités en détail. Qui méritait vraiment le Ballon d'Or parmi tous ces joueurs ? Est-ce que c'est une injustice d'ailleurs qu'aucun ne l'ait remporté ? On revient dans un instant dans Team Dugas sur RMC.
RMC, 18h-20h.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, Team Dugas continue, 19h28 avec Jean-Louis Tour, Julien Cazard, Fred Hermel, Gilbert Bribois et Capitaine Larquet, que du beau monde. Alors, c'est plutôt jeune, effectivement, mais c'est du beau monde.
Tu sais mettre les gens en valeur et ça, bah, ça fait
bien
plaisir.
Sûr. Ah, bah écoute.
Alors, en parlant de jeunes et de jeunesse, le blind test sera là dans
c'est
un quart d'heure.
Qui est le plus jeune, d'ailleurs ?
Bah, c'est moi.
Et après
c'est moi.
Ah non, c'est moi.
Ah non, ça c'est Gilbert, ouais.
Non, mais Gilbert, c'est pas vrai.
Eh ben si.
Non, mais il est temps de briser.
Tu sais, c'est moi, mon vrai prénom, c'est Kevin, en fait. Gilbert, c'est pour l'antenne, hein. C'est pour faire plus sérieux.
Moi, je pense que parmi les moments forts de Team Dugas et de ton passage, je garderai le moment où tu t'es rendu compte que Gilbert était plus jeune que toi. Et ça, c'était excellent.
Ah, non, mais c'était une surprise. Ça a été une grosse surprise. Mais... Non, mais les auditeurs, ça sert à rien. Mais Ludo, c'est pareil. Ludo qui est plus jeune que moi, non, mais c'est une blague.
Ça, c'est Ludovic Languet qui est le responsable des consultants. Avec qui vous parlez tout le temps.
C'est vrai qu'il.
Tu veux dire que les mecs qui bossent, ils vieillissent plus vite que les mecs qui branlent rien dans un transat. Ça en apprend un truc. C'est fou ça.
Après, ça le fait à tout le monde quand vous voyez à la télé un reportage, n'importe quoi, et vous voyez le nom de la personne en bas. Vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne juge pas plus vieux qu'elle ou que lui. Enfin, c'est
moi, ça ne me fait jamais ça. Mais en tout cas, 32-16 pour vous inscrire pour le blind test. Le moment où tu restes jeune du gars, c'est le blind test à 19h45. Donc 32-16 pour vous inscrire. On refait ensemble la Grande Espagne, donc celle de 2008 à 2012, qui a remporté 2 euros et une Coupe du Monde. Et on va s'attarder sur ces individualités, donc, qui ont un palmarès extraordinaire désormais en club. Et aucune d'entre elles n'a gagné le Ballon d'Or. Alors, évidemment, le moment où on a créé à l'injustice, c'est 2010 pour Xavi et Iniesta, notamment, hein, Fred.
Oui, alors il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus sur ce fameux Ballon d'Or. C'était la première année où c'était la FIFA et France Foot.
Ouais.
C'est-à-dire ça durait pendant 5 ans. Aujourd'hui, c'est de nouveau, grâce à Dieu, 100% France Foot. Mais à l'époque, il faut voir les votes.
Grâce à Dieu. Ah, c'est cool.
Je crois qu'il a rien à voir là-dedans. Enfin bref.
Rappelez-vous, le vote des journalistes. L'année où Messi gagne, deuxième Iniesta, troisième Xavi. Si on prend, alors rappelez-vous, à l'époque c'était les journalistes, les sélectionneurs et les capitaines de sélection. Pour moi, cette année-là, c'est un certain Schneider qui aurait dû gagner, puisque Schneider gagne la
finale de Ligue des Champions.
Il gagne la Ligue des Champions,
il fait finale
la coupe. La coupe, le Calcio et les finalistes avec les Pays-Bas du ouais. Mondial. Et les journalistes avaient élu Schneider. Et ensuite, avec les capitaines, etc., nanana, le mélange a fait que c'est Messi qui a gagné. Mais il faut expliquer une chose à l'époque, c'est que le Barça avait fait une communication, une campagne en faveur de Messi qui était un truc de malade, jusqu'à même obliger Iniesta et Xavi à dire que non, c'est Messi qui méritait. Faut voir, parce que moi j'ai vécu ça de tout près, parce qu'en Espagne c'était, c'est le Ballon d'Or, ici c'est un des, d'ailleurs on va bientôt parler du Ballon d'Or là. Enfin c'est vraiment le débat numéro un qu'il y a en Espagne dès que ça se rapproche quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une injustice que ni Xavi ni Iniesta n'aient gagné le Ballon d'Or, mais ils n'ont pas été vraiment aidés par leur club. Hein.
En fait cette année-là c'est devenu le Ballon d'Or PlayStation un peu, et il est redevenu Ballon d'Or un peu avec Modric.
Bah complètement.
Parce que là, franchement, Messi ne fait pas une année.
Moi, je vais vous dire. Moi, je pense que le fait qu'aucun de ces gars-là n'ait eu le Ballon d'Or, en fait, et moi, je le vois positivement. Moi, je suis pas un grand fan.
Ça révèle quelque chose, en
exactement.
Fait.
Exactement. Mmh. Exactement. Moi, je suis pas un grand fan du Ballon d'Or, parce que les récompenses individuelles dans le foot, je trouve que ça n'a aucun sens. Eu, pour ça,
ouais. Voilà. On dirait un joueur qui l'a pas eu, ouais.
non, mais moi, c'est mon avis. Ouais. Hein. Après, tout le monde s'excite sur le Ballon d'Or. Très bien. Chacun son avis. Et le fait que le collectif et ce qui dégageait, en fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait un gars qui ait le Ballon d'Or. Là, tu voyais le foot, quoi. C'était l'équipe. Ouais. Et c'est magnifique. Oui,
mais il n'y avait pas un joueur.
C'est très bien qu'il n'y en ait aucun qui ait le Ballon d'Or.
C'est vrai que ça s'est passé pareil avec l'Allemagne en 2010. C'est-à-dire que t'as pas un mec particulier dans cette équipe. C'est-à-dire que c'est.
En 2014, l'Allemagne, c'est pareil.
En fait, moi, je te suivrais, Gilbert, si c'était ponctuel sur une grande compète. Là, moi, je trouve qu'une équipe qui a gagné les trois grandes compètes de suite, ça mérite qu'il y ait un marqueur dans l'histoire.
Et ça, c'est le Ballon d'Or. Alors, moi, j'ai une petite théorie.
Oui.
Je pense que les gens qui voulaient récompenser ce football-là, ils ont partagé les voix entre Xavi et Iniesta. Et le problème, c'est qu'il y en avait deux qui le méritaient. S'il n'y avait pas eu Xavi, il y avait eu une équipe avec plus Iniesta, peut-être qu'il aurait eu plus. Mais là, je pense qu'il ça a été partagé entre les deux.
On sent le mec qui fait la politique. On sent le
bien sûr. Ah,
t'es où dimanche dans quel bureau de vote, Julien?
Je suis sympa parce que déjà, j'ai vécu la remontada, je ne devrais même pas parler de ces gens. Donc arrête de m'emmerder.
C'est vrai. Alors, bon, effectivement, Xavi Iniesta, est-ce que Duga, tu les ranges parmi les meilleurs milieux de terrain que tu as vu à l'œuvre?
Bah de très loin, enfin le mec qui n'aime pas Iniesta ou Xavi, c'est qu'il n'aime pas le football. Ouais. Mais voilà, c'est des vrais footballeurs. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire de plus? En plus, ce qui est top aussi, c'est que voilà, avec un physique, des joueurs de petite taille, pas forcément très rapide, mais voilà, un cerveau qui marchait beaucoup plus vite que les autres.
C'est le ballon qui est vite. Hein.
Et puis un pied, la manière de faire des passes, la manière de trouver des angles de passes, d'inventer des passes. C'est le football même. Ces garçons sont tout simplement magiques.
Oui, parce que quand
Iniesta, c'est un peu un mini Zizou, non? Un peu dans le genre, dans sa vision du jeu et tout.
Non, c'est pas tout à fait.
Bah, ça, je compare rien à Zizou, pardon.
Non, mais un mini Zizou en taille.
Non, simplement.
Fred a fait un AVC là.
Pour ceux qui ont suivi.
Vas-y, capitaine.
Comme Gilbert, comme Jean-Louis, comme Jérôme Roten, comme Duga, qui ont suivi les cours de Domenech à l'INF Clairefontaine, on te dit que dans un match. C'est l'équipe qui gagne le plus de duels qui l'emporte. C'était un.
Ah, c'est ce qu'a expliqué Domenech, là, quand il faisait les formations de coach.
Donc, tu vois tout de suite sur quel plan il met le football. Et en fait, vous parlez de Xabi et Iniesta, eux, ils évitaient tous les duels.
Bien sûr.
Tu pouvais pas les attraper, c'était des anguilles. Ils évitaient. Eux. Dès qu'il voyait un adversaire, il faisait tout pour l'éviter et non pas pour aller gagner un duel comme ça, pour savoir qui avait la plus grosse, comme dit Duga. Il faisait un football d'évitement alors que certains prônent un football de combat.
Donc toi, Jean-Michel, pour toi, le foot, c'est pas un sport de contact. C'est un sport d'évitement.
Ah ben, tu sais que...
Ah mais moi, je pense
ça. Tu sais, Gilbert... Ah oui. Tu sais quand même que l'une des bases pour réussir une bonne passe, alors je ne sais pas si c'est celui qui a le ballon qui commande ou celui qui n'a pas le ballon qui commande, mais c'est plus facile de donner le ballon à un mec qui est démarqué, donc qui évite l'adversaire, plutôt qu'à un mec qui est marqué. Enfin, voilà. C'est... Après, on peut en discuter, on peut passer la nuit là-dessus, mais il me semble que c'est plutôt un sport d'évitement qu'un sport de duel et de combat.
Ouais. Mais tu parles du rugby ou du foot?
Bah, nos amis du rugby, il faudrait bien aussi de temps en temps penser que c'est aussi que l'évitement peut amener.
Le plus beau rugby, c'est le rugby d'évitement, c'est pas le rugby.
Je suis bien d'accord.
Bon, ouais.
Et oui, mais quel est le rugby qui gagne? C'est ça qu'on va te répondre à chaque fois. Et pareil pour le foot.
Et bien justement, c'est le rugby d'évitement. Les All Blacks, ah ils n'ont pas les joueurs les plus costauds. Hein.
Non. C'est vrai que Jonah Lomu, il était vraiment dans l'évitement.
Jonah Lomu, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais c'est l'exception.
Mais pour compléter ce que dit Jean-Michel, l'adjoint mythique de Valdano, qui s'appelait Angel Capa, disait toujours, le football, c'est l'engagno, c'est la tromperie de l'autre. Comment tu fais pour le tromper? Tu lui fonces pas dedans, tu le trompes.
Du gars.
Tu dis, tu regardes le ballon, il est là. Hop, ben non, mais il est là. Voilà. Tu vois, donc on est là. C'est un tour.
Vous voyez comment il est. Ça, c'était pour compléter.
Oui, bah, parfaitement complété.
Mais t'es d'accord avec moi, Jean-Michel.
Oui, bien sûr.
D'évitement et de tromperie.
Il y avait beaucoup d'évitement, de tromperie et de fuite des duels. Mais il y avait aussi de sacrés défenseurs. On peut quand même s'arrêter là-dessus. Parce que quand la défense, c'est Ramos, Piqué, Puyol, déjà, quand il y a ces trois-là sur les quatre. Bon, c'est quand même du lourd.
Est-ce que c'est pas Puyol le plus
pour toi, c'est le plus fort des trois là que j'ai cité?
Non, je pense que le plus fort c'est Ramos.
Pas du moins le plus impactant quoi dans une équipe.
Mais le plus impactant, je pense que c'est Puyol. Je pense qu'il a un tel leadership.
Ramos était jeune.
Moi j'ai revu. Alors je suis rarement sur les réseaux sociaux. Enfin, je suis jamais d'ailleurs, mais sur internet, j'ai revu la dernière fois un truc que m'a envoyé mon fils sur les attitudes de Puyol sur ses propres coéquipiers qui avaient des mauvaises attitudes.
Au Rayo Vallecano, on devait être ensemble, je crois, non?
Ouais, non, mais il y a des images où il reprend ses coéquipiers qui ont une mauvaise attitude par rapport à l'arbitre, par rapport à l'adversaire, il vient les chercher, les attraper deux, trois fois par le callback. Le mec, c'est un leader, quoi. Il montre l'exemple. Il est incroyable, ce Puyol. J'avais pas souvenir d'autant, tu vois, de charisme et de,
qu'il en imposait autant.
Non, lui, il était pas dans les délitements.
Il a évité son coiffeur, quand même.
Oui. C'est ça qu'il a évité, ouais.
Moi, dans mon souvenir,
les cheveux qui parlent des coiffeurs.
C'était plus ça, sa force, parce que défensivement, techniquement, j'ai l'impression que un Ramos c'est plus fort. J'ai l'impression que lui, c'était vraiment plus de la personnalité. Parce que
tu ne nous écoutes pas, c'est ce qu'on vient de le dire.
Il a besoin de boire un coup.
Il voulait bien dit.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je le trouvais pas irréprochable défensivement.
C'est ce qu'on a dit, oui. C'était
non, je le trouvais loin d'être irréprochable défensivement.
Mais il a raison. Contre l'Allemagne, vous vous souvenez? Le but de la tête sur corner.
Oui, bien sûr.
Alors, il se passe que il se trouve, c'est au mondial, c'est en quart, c'est en huitième ou en quart, je sais plus. Contre l'Allemagne.
En 2010
En 2010.
Là, attends que je me rappelle.
J'ai plus ma tête.
L'Allemagne, c'est en demi.
C'est en demi. En fait, c'est 1-0. Et en fait, juste avant le match, dans l'entraînement la veille du match, Puyol va voir Del Bosque et lui dit, écoute, il y a un truc qu'on fait pas mal au Barça, etc. Il faudrait peut-être qu'on travaille sur un corner, etc. C'est-à-dire, moi, j'arrive de très loin. Et paf, c'est ce qui se passe. Et Del Bosque dit on va le tenter, si on a dès qu'on a un corner pas mal, on va tenter ça, et il le marque. Vous savez, il arrive de très loin, c'est une tête très forte,
bien sûr.
Et ça, c'est un truc, c'est une proposition de Xavi à Del Bosque avant de Puyol à Del Bosque avant le match.
Et alors, puisqu'on est sur les défenseurs, Puyol va prendre sa retraite après la Coupe du Monde 2010, et la défense centrale en 2012, c'est donc Piqué, Ramos. Et c'est quand même assez fascinant aussi de voir que deux mecs peuvent se mettre sur la gueule à chaque classico, mais quand même jouer ensemble en sélection et gagner des titres.
C'est fou.
Et en plus être politiquement très éloigné, parce que
il a bien joué avec Deschamps, non?
Tu veux dire avec Zidane?
Non mais les spécialistes de ça là-bas, c'était les Allemands. Les Allemands, ils pouvaient se filer sur la gueule et jouer ensemble, aller boire des verres et tout ça. Que ça arrive en Espagne, c'est vrai que ça a été une réelle surprise quand même.
Non, parce qu'en plus vous avez quand même Piqué quand même très pro indépendance de la Catalogne, et vous avez l'Andalou Ramos qui est à fond pour la défense de l'Espagne. Donc mais ils se complétaient très bien, c'est deux mecs très très forts, quoi. Et
l'évolution, ils ont quoi comme relation au-delà de ça? Ils étaient potes,
il n'était pas pote politiquement, tu es
opposé à ce point, tu peux pas être pote, c'est pas possible.
Non, il n'était pas pote, mais il se respectait professionnellement, bien entendu, quoi. Donc mais il y a toujours des petits piquets, justement, des petites piques entre Piqué et Ramos encore aujourd'hui, hein, donc notamment sur l'arbitrage et des trucs comme ça. Donc Ramos a encore répondu.
C'est parfois un peu justifié quand même.
De quoi?
Ramos?
Non, sur hier par exemple, il y avait un petit match, non, du Real Madrid.
L'arbitrage. Ouais. Non mais l'arbitrage en Espagne, il est nul pour tout le monde.
Bah oui.
À un moment, faut.
Non mais moi, je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai
trouvé
que Ramos est plus complet que Piqué.
Oui.
Je trouve.
Du gars. Toi qui adore Piqué.
Moi, Piqué, j'arrive pas. Il a fait des grandes choses. On peut pas lui enlever ses titres. Personne ne lui a donné.
Je suis d'accord
avec Piqué. Il a fait des. Mais moi, je suis pas fan du tout de Piqué. Je le trouve lent. Je le trouve souvent mal placé.
Il a eu la chance de jouer dans les grandes équipes à chaque fois, quoi.
Bah, le truc dont on est convaincu, c'est que Piqué ailleurs qu'au Barça, on n'en est pas convaincu, mais on a du mal à l'imaginer. Alors que Ramos, tu te dis que tu peux le mettre partout.
Ramos, c'est encore le coup franc qu'il met hier soir, là.
Oui,
Ramos, il fait partie des 5 plus grands défenseurs au monde, sans aucun doute.
De l'histoire.
Même de l'histoire peut-être. Ouais. Ramos, c'est fou.
Mais déjà, il a été latéral, donc il a une palette technique, tu sais, au niveau offensif et de tout, qui est plus forte, quoi.
Il a commencé attaquant quand il était jeune, donc c'est quelqu'un qui est très fort. En plus, il a un caractère, mais c'est vraiment un gagneur. Et c'est surtout celui qui amène la cavalerie. Enfin, vous savez, quand ça va pas, t'as Ramos sur le terrain et il dit bon les mecs, on arrête de déconner. Il a un pouvoir de conviction et une autorité sur ses partenaires. Qui est quand même très important.
Il a quand même marqué
un peu
important, tu vois.
Il marque des buts en plus. Des buts importants, bien sûr.
Non, mais ça, sur les 20 dernières années, qui est au-dessus de Ramos, j'en vois pas beaucoup. En défenseur pur, qui est capable de marquer des buts décisifs, qui a gagné autant de titres, tout ça.
C'est compliqué.
Maldini, quand même.
Je suis même pas sûr, Maldini, moi.
Moi, j'allais dire Laurent Blanc et Le Boeuf, mais effectivement. Maldini, t'es pas sûr, ouais.
Non, je suis même pas sûr. Non, je préfère avoir Ramos que Maldini dans mon équipe. Alors, après, parce qu'il est latéral aussi, il est latéral, donc c'est un poste qui est moins exposé. Quand t'as un mec dans l'axe comme ça, qui est un patron. Comme Ramos.
Cannavaro, il était dur, hein. Il était dur, ouais, Cannavaro aussi.
Je préfère Ramos.
En fait, lui, c'est un mélange de Nesta et Cannavaro, quoi. C'est ça, il a les deux. En fait.
Et puis, il faut quand même dire un mot de Casillas, le gardien, qui a fait ses arrêts décisifs dans toutes ces compétitions, Fred.
Ah oui, qui a été fantastique. Et c'est un pénalty contre le Paraguay au Mondial où il y a pénalty pour le Paraguay, il l'arrête. Et là, on se dit l'Espagne, l'Espagne va, je sais plus c'est en huitième ou en quart, parce que j'ai tellement de mal, il y a tellement de matchs à l'époque, où on dit l'Espagne va encore s'arrêter. Et là, il fait un Paraguay, c'est en quart. Et là, il arrête le penalty. Non, mais Casillas, c'était à ce moment-là un type
le meilleur gardien du monde.
Et pour en avoir discuté avec Ancelotti. Le préparateur des gardiens d'Ancelotti, qui s'appelait William Vecchi, disait Ancelotti, il me dit Casillas, c'est pas le meilleur, mais il a de la chance. En plus, il est bon, c'est pas le meilleur.
C'est vrai qu'à un moment donné, il a eu quelques poteaux sortants qui étaient pas.
Ouais.
La plus belle histoire de Casillas, c'est quand même qu'avant qu'il soit en couple avec Sonia Carnero.
Non, Sarah Carbonero.
Non. Carbonero.
Sarah Carbonero. C'est donc pas Sonia Carnero qui travaille chez nous.
Et là, j'ai eu un choc, mais.
C'est surtout qu'avant qu'il soit avec Sarah Carbonero, le soupirant de Sarah Carbonero était Fred Hermel. C'est surtout ça l'histoire de Casillas.
Alors, non, enfin, oui, enfin, j'ai un peu essayé. Je vais reconnaître que je la trouvais charmante.
Tu es en train de nous expliquer que t'as essayé. Non, mais
que t'as pris une veste.
Ouais, je suis pas allé jusqu'à la veste.
Non, par-dessus, pas une veste.
J'ai vite compris que je jouais pas la même division.
Tu vas quand même pas lui reprocher d'essayer.
Mais non, mais au bout d'un moment, il faut savoir être lucide aussi. Non, mais c'est pas malentendu qu'il faut, là. C'est une épidémie de choléra. Non, mais c'est seul au monde. Non, mais seul au monde. Là, il faut que c'est Michel Blanc. C'est Jean-Claude Duss.
Sur un malentendu, effectivement. Non, mais bon. C'est pas un gros malentendu.
Non, mais ce qui était terrible, rappelons juste quand même
que Sarah Carbonero, c'est donc Madame Casillas, et c'est une journaliste assez réputée en Espagne qui faisait les bords terrains. Et on se souvient notamment qu'à l'Euro 2012, lors du quart de finale France-Espagne, je crois que c'est Martin et Ménez qui s'amusent à l'échauffement, envoyer des ballons sur Sarah Carbonero.
Ouais, exactement.
Très fin.
Voilà.
Mais Fredo est très beau, très élégant, beaucoup de charisme et tout, mais c'est pas suffisant, là. C'est catégorie au-dessus, là.
C'est pas un cocktail qu'il y aurait fallu à son nom. Il aurait fallu passer l'étape au-dessus.
Il faut savoir reconnaître que voilà.
Ah, mais je pense que Fred l'a peut-être abordé comme ça. Tu sais que j'ai un cocktail à mon nom et tout. Enfin bon.
Je voulais vraiment que je vous dise comment je l'abordais.
Je pense qu'il l'a invité à
Ça m'intéresse.
Si c'est racontable,
alors vas-y.
parce que c'est l'époque où j'apprenais l'hébreu. Et j'ai dit, ah Sarah, j'ai, ah, tu sais comment ça s'écrit en hébreu et tout. Puis je lui ai écrit en alphabet hébraïque et tout.
Et ça s'est arrêté là.
Et ça, voilà, c'est tout.
Grâce à ça,
honnêtement, moi, d'habitude, quand tu dragues, tu sors ta carte bleue. Donc je sais pas ce qui t'a pris ce jour-là.
Bon, on va en rester là. Je pense que c'était la meilleure façon de conclure sur la Grande Espagne. Un petit mot sur Iniesta, le but de la finale, s'il te plaît.
Oui, bien sûr.
Et la dédicace à son ami Dani Radke, joueur de l'Espagnol, qui était mort quelques mois auparavant.
Et ben voilà.
Voilà, ça c'était l'image pour l'en Espagne, l'image du mondial, c'est Iniesta qui marque, ouais, et qui soulève son maillot, et il y a le message pour son ami.
Et Iniesta qui applaudit partout les saisons suivantes, ce qui est très rare pour un joueur du Barça, donc effectivement le geste a une portée forte. Voilà pour l'Espagne. Fred, tu restes avec nous bien sûr pour le blind test. On revient dans un instant, allez, à tout de suite. Alors, on a cité quasiment tous les joueurs de cette équipe d'Espagne, hein, mais je rappelle quand même qu'il y avait donc Capdevila également, hein, qui fait deux compétitions. Pedro, le Barcelonais, qui va s'imposer à partir de 2010. Arbeloa.
Il quand même.
Comment Pedro,
bizarre ce joueur.
Mais bon, oui. Mais il était là quand même. Xavi Alonso, ouais, hein, dont on n'a pas parlé, mais qui s'installe vraiment au milieu de terrain avec Busquets.
Très bon joueur, très bon joueur.
Et la différence après, c'est surtout le 9, c'est qu'il
voilà, avec Fabregas,
vous avez pas depuis longtemps.
Oui.
Non, mais même, tu sais, tu dis Fabregas, mais il a énormément compté Torres. Hein. Il a mis
des buts super importants.
Torres. Finale,
bien sûr, il marque dans les deux finales d'Euro.
Ouais, c'est pas rien. Hein.
Le seul but en 2008 et l'un des buts en 2012 de la large victoire contre l'Italie. Donc ouais, effectivement. David Silva également, bien sûr. Hein,
il revient, mon ami, oui.
L'ami de Captain Larquet, voilà. Donc voilà pour cette équipe d'Espagne, bien sûr. Peut-être un but, Fred, en plus, que tu veux nous, que t'as en tête, qui te revient. Non.
Oh, pour moi, sincèrement, c'est
celui d'Iniesta.
C'est celui d'Iniesta parce que, en fait, s'il fallait un mec qui marque, c'était lui parce que c'est peut-être le mec le plus sympa de toute l'équipe. C'est celui qui au départ est supporter du Real, qui vient de Castille-la-Manche, c'est-à-dire vraiment l'Espagne profonde, qui à l'âge de 13 ans va à la Masia et fait toute sa formation au Barça, qui est aimé partout, qui est vraiment un type qui n'a jamais dit un mot plus haut que l'autre et tout ça, qui était, tu sais, c'est le gendre parfait, Iniesta. Donc c'était.
Et il est où aujourd'hui pour
l'histoire. Il était à Kobe au Japon.
Ah oui.
Ouais. C'est pas pour son business de vin qui est un peu.
C'est pour ça. En fait, tu sais tout, toi. C'est impressionnant. Oui. En fait, il est de la Mancha. La famille d'Iniesta fait du vin. Fait du vin. Il fait du vin et le business marche pas très 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 bien. Ah. Et donc partir au Japon, c'était aussi essayer d'ouvrir des nouveaux marchés.
Très bien. Voilà donc pour l'Espagne, on revient dans un instant, le blind test comme promis.
RMC, 18h20, Tim Dugas, Jean-Louis Tour, Christophe Dugarry.
Allez les amis, Tim Dugas pour encore une dizaine de minutes, vous le savez, c'est le moment du blind test.
Alors on y va tout de suite avec une équipe Dugarry, Hermel, Bribois et une équipe Cazard.
Ah non, moi
Larquet.
Je suis toujours avec Cazard, on est invaincu.
Bon, bah alors va avec Julien et Caroline Larquet.
Alors là, tous les deux on est invaincu, mon vieux.
Là, c'est une stat inventée, ça. C'est bien les mecs de l'after. Daniel est capable de nous sortir la même chose.
Invérifiable,
etc. Bon, on va faire ça entre vous, hein, et évidemment, on va voir qui est le plus fort. Dugas, t'es prêt?
Moi, je suis avec qui?
Avec Dugas.
Bien sûr.
Que tous les deux.
Oui, que tous les deux.
Mon Fredo, t'inquiète.
Vous êtes excellent.
Et Jean-Michel?
Et Jean-Michel est avec vous deux.
Je vous supporte, là.
Non, mais sinon, vous avez raison. On va plutôt équilibrer. Captain passe avec Dugas et Fred.
Oh, c'est le bordel, cette émission.
Et en face, donc Gilbert et Julien, parce que vous n'arrêtez pas de chanter. Vous êtes tous les deux.
L'after, c'est bien mieux organisé.
Bah, c'est mieux organisé.
Ah bon, vraiment? Vraiment, les quiz de l'after? On écoute quelques extraits.
Pardon, il y a une critique?
Non, il y a une remarque d'auditeur. C'est pas toujours très carré.
Les Chicago Bulls avec.
Très bien, allez, on n'a pas le temps. Donc, une chanson.
En demi-finale.
Une chanson, vous trouvez l'interprète et derrière une question foot très intéressante. La première chanson. Vous trouvez l'interprète.
Angèle,
bien sûr, Fred. Et du gars, vous êtes ensemble, vous inquiétez pas.
Ah oui, c'est parfait, oui. Super, bravo.
J'ai mis du temps à comprendre. 1-0 donc. Angèle, donc. Voilà, c'est simple. Un surnom d'Angèle Di Maria. Un
de ses surnoms. El Fideo.
El Pollo.
El Fideo. Gilbert, bien joué. El Pollo,
tu racontes. El Pollo, c'est Fred Hermel qui l'appelle comme ça.
Ouais, El Poulet sans tête.
Il y avait Angelito ou Fideo, bien sûr.
Fideo, c'est fil de fer.
Très joli, exactement. Vraiment, c'est très joli, très classe.
Et toi, Dugas, c'était quoi?
Si tu savais.
Voilà. Allez.
La machina.
Oui, c'est ça. À Marseille, pas tout à fait.
Alors, en Italie, ça veut juste dire la voiture. En Italie, ça veut juste dire la voiture.
Nouvelle chanson, on y va.
Scorpion?
Ah non.
putain, je
Linklid, Linklid, Linklid.
Non.
Weekend, Weekend.
Oui, Weekend, Weekend. Oh là là.
Bien joué.
Mon gamin, il écoute que ça, ça me saoule.
T'attendais quoi, LinkedIn au début?
Ouais, ouais, je dis n'importe quoi, je confonds LinkedIn avec Weekend.
Blinding Lights.
The Weekend, donc.
Ouais.
Quel jour le week-end débute-t-il dans Team Duga?
Jeudi.
Oui, super.
Mais c'est vraiment honteux. Hein.
Ah ouais, t'es inspiré, mon Jean-Louis.
Honnêtement, moi, honnêtement,
non, mais c'est vacances, vous dites.
Officieusement, c'est mardi hein, pour moi. Hein,
ce qui se passe, c'est que j'ai écrit ça. Et ensuite, j'ai écrit pour plus sérieusement. Et je vois que j'ai pas écrit une question foot derrière. Donc bon, voilà, on reste là-dessus. Ça fait 2-2. Nouvelle chanson. Faut trouver.
2-2.
Bon. L'interprète.
Ça, c'était ah, oui, la question foot. Ouais.
C'est ça. Bah, c'est Team Duga, c'est une émission de foot.
D'accord. Johnny.
Non. Captain, tu peux jouer.
Ah non.
Ah non.
Pas Guns, mais.
Scorpion.
Non. Pas loin.
ACDC.
Non.
Eurythmics.
Metallica.
Oui, Metallica, Julien.
Oh, Julien.
Bien joué, Julien, 3-2.
Ils les tous dit, c'est fou, ça, quand même.
Mais quel accent tous, anglais, Captain Larké, c'est impressionnant. Enfin, il a dit Eurythmics, là, Captain. Magnifique. Ouais.
3-2.
Et comment veux-tu que je dise?
Ah, c'est parfait, bravo.
Ah, pas toi, Bernet.
Mais cette chanson, donc...
Alors, attends, attends, c'est qui, le...
3-2 pour nous, Captain. Ah non, ça n'est pas avec nous.
Non, exactement. 3-2, donc. Sorti en novembre 2019. Qui est élu joueur du mois de novembre 2019 Thauvin. En Ligue 1 oh. C'est pas Thauvin.
Payet.
C'est pas Payet.
Je joue même pas.
Mandanda.
Zlatan. Di Maria.
Non, non, non. C'est pas un joueur du PSG.
Sanson.
Non, c'est un joueur qui est à Lyon, mais il n'était pas à Lyon à l'époque.
Depailler.
Non, non.
Oh Reine Adélaïde.
Oui, Captain Larké, Reine Adélaïde, 3 partout.
Ah ouais.
Bravo, Captain.
T'imagines, on en est à mec, des mecs comme Reine Adélaïde, meilleur joueur et de Ligue 1, t'imagines. Pff, la violence.
Oh, du mois, hein, je te rassure.
Ouais, enfin même du mois.
J'ai un problème, c'est semaine, quoi, hein. On n'a pas prévu la SketchUp pour Fred Hermel, là, mais bon, ouais, on sait. Ah, tu peux quand même trouver une bonne réponse, Fred.
On y va. J'ai dit la première, c'était Angèle, j'étais
Ah oui, c'est vrai, bravo. Nouvelle chanson, 3 partout.
Azabou,
Fred Hermel,
Azabou,
4-3.
Oh non, t'as pas le droit.
Ah, j'ai le droit.
Formidable.
Mais j'ai un décalage avec Fred, moi.
Oh, oui,
il est pas en studio, comment ça se fait?
Parce qu'il a un meilleur internet que toi.
Eh bah ouais. Eh ouais.
Eh oui. 4-3.
Tu devrais me le laisser, tu devrais me le laisser.
Julien, réveille-toi là.
La question.
J'ai dit Aznavour, le truc que je lise.
Donnez-moi un joueur de foot prénommé Charles.
Charles Labi.
Corridon.
Charles Caboret.
Charles Labi. Jean-Tétienne. Saint-Étienne.
Corridon. Oui, oui, c'est Gilbert. 4-4. C'est Gilbert le premier. Et c'est Charles-Édouard Corridon. Il y avait Charles Itange.
Voilà. C'est Charles-Édouard Itange.
Charles Caboret. Charles Hubert Itange.
Charles Hubert.
Charles Fouillol.
Bon, ça fait 4-4. Ah oh bah bon, on va se décider sur cette dernière chanson alors.
Vas-y, Julien.
Bon, je vais assez.
Amy Winehouse.
Eh oui, Amy Winehouse. Victoire de Duga, Fred et Captain. Première défaite pour le duo Cazard-Bribois.
Bravo. C'est vrai qu'il y a vraiment une meuf qui s'appelle Maison du Vin, j'aurais dû trouver, quoi.
Normalement, oui. Merci tout le monde. Gilbert Bribois, Julien Cazard, Fred Hermel, on vous retrouve dans l'after ce soir. Bah oui.
Et bon week-end, Duga.
Bon week-end, Duga, effectivement. Captain, à demain dans Rotten Régal à 18h. Duga, on se retrouve lundi. Ne ratez pas les meilleurs moments de Team Duga les samedis et dimanches entre 18h et 20h. Le foot, c'est demain. Rotten Régal à 18h. Et dans un instant, avec le RMC Football Show spécial Coupe d'Europe, sachez que Valence est mené 1-0 à Eibar et Arsenal mène 1-0 à Southampton. Ciao à tous.
RMC 18h-20h. Team Duga.